Bonjour à tous et à toutes. Bien, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir quelque chose d'assez important, entre guillemets, et je reviens un petit peu sur la vidéo précédente, afin que vous puissiez quand même vous remettre un peu les choses en place. Donc j'avais parlé donc la dernière fois de la loi, on va dire unitaire originelle, ou la dualité simple. Nous avons vu donc dans cette dernière vidéo qu'il y avait donc une période de transition entre le premier cercle atomique et le deuxième cercle atomique qui s'appelle le septième super-univers. Donc cette problématique entre guillemets est nécessaire dans le sens où, comme vous avez pu le voir, les six premiers univers correspondaient à, on va dire, l'amour christique. Et que le deuxième cercle atomique va correspondre, on va dire, à l'amour solaire. Donc, nous avons ici un petit décalage vis-à-vis de ce septième super-univers, hein, par rapport aux cinq autres, puisque nous allons de 606, hein, rappelez-vous, hein, d'hexagramme en hexagramme. Et donc, nous pouvons comprendre que cette période de transition va être une période, on va dire, où nous allons expérimenter, on va dire, le solaire, l'amour solaire. Et que dans un autre registre, il va falloir y mettre l'amour christique. Donc c'est une zone de transformation, un passage, une transition, qui va faire que nous allons passer effectivement d'un monde de dualité, on va dire, simple, où il n'y avait que le corps et l'esprit, eh bien nous passons dans cette zone transitoire, où il va y avoir en fait une double dualité. C'est pour cela que notre corps et notre esprit directeur est basé sur cette double dualité. Donc cette double dualité est pas la fusion pour l'instant, mais disons que la collaboration entre deux dualités qui vont s'opposer, une qui correspond à une dualité, on va dire, féminine, et une à une dualité, excusez-moi, masculine. Cette confrontation entre ces deux façons de voir, entre guillemets, va générer une friction, et cette friction va amener donc un troisième acteur que nous connaissons sous le terme d'âme. Car avant, il y avait le corps et l'esprit. L'esprit pouvait commander directement la matière et donc arriver à ce fameux amour christique total. Et le fait de rajouter un acteur supplémentaire que j'ai représenté ici en bleu, eh bien, va demander une période dite d'adaptation. Et cette période d'adaptation, cette friction, eh bien, va correspondre donc à l'âme. Donc ça serait un petit peu comme le ciel et la terre, hein, puisque nous savons que, et ceci c'est une géométrie, eh bien vous avez la terre et vous avez l'air. Et entre les deux, bah, vous avez une espèce de couche d'huile qui va apparaître, hein, c'est-à-dire toutes les résistances, toutes les frictions, toutes les oppositions. Et cette couche d'huile, on l'appelle l'âme. Donc vous allez comprendre que tôt ou tard, il va falloir dégager cette couche d'huile pour que l'esprit puisse enfin recommander, pas recommander, être capable de pouvoir directement parler à la matière sans passer par un intermédiaire. Hein? Donc nous passerons entre guillemets, enfin bon, je vous expliquerai ça dans d'autres vidéos parce que sinon je ne vais pas m'en sortir. Donc maintenant nous allons passer au corps même de la vidéo qui correspond à l'historique d'une transformation inévitable. Car passer de la simple dualité à la double dualité est inévitable pour bien sûr pouvoir aller dans le deuxième cercle atomique et donc expérimenter l'amour solaire sous toutes ses coutures. Donc maintenant, eh bien, je reprends donc la loi unitaire originelle, la dualité simple, où nous avons vu qu'il existait, en fait, qu'il y avait, on va dire, une vibration et, on va dire, une géométrie. Donc l'objectif de la géométrie est de délimiter une certaine vibration. C'est-à-dire que si la vibration est livrée à elle-même en tant que telle, elle s'expand partout et, en fait, ne donne pas grand-chose. Donc la géométrie a pour objectif d'enfermer, on va dire, la vibration. Donc cet enfermement est connu sous le mot, on va dire, d'ego, tout simplement. Alors cet ego, eh bien, rappelez-vous, il y a le véritable ego et il y a le petit ego. Donc, comprenez qu'il y a des étapes, hein, et vous les comprendrez de toute façon. Si vous avez vu mes vidéos précédentes, vous devrez normalement comprendre la différence entre l'ego, le vrai, enfin le grand, et le faux, petit ego. Donc ici, eh bien, cette partie vibratoire, on va dire, est basée sur un principe qu'on va appeler le principe Christos. Donc ça veut dire que ce principe Christos a des qualités inhérentes à la vibration, qui est d'un aspect évidemment féminin, et ce féminin a des règles de base, on va dire, par rapport à ces principes, qui sont tout simplement ce que nous appelons l'amour. Alors, de ce que je vous parle ici, je vous parle de la loi unitaire originelle. Hein, ce n'est pas l'amour humain, ce n'est pas la compassion humaine, ce n'est pas le don de soi humain. Et en fait aussi sa vision de partage. On pourra reprendre ça si vous voulez, mais globalement, c'est ce qui est la véritable vibration au départ, un amour. Et un amour, on va voir que c'est simplement reconnaître en l'autre qu'il est simplement toi et que tu dois donner toute l'information que tu possèdes. Donc on est dans la notion de partage. Donc à chaque fois que nous sommes dans la compassion, hein, c'est-à-dire que nous regardons l'autre pour ce qu'il est. Et s'il est, on va dire, dans un état de moindre vibration, eh bien, vous allez l'aider par votre vibration. Donc, il y a une hiérarchie d'amour qui est simplement une hiérarchie de lumière, de rayonnance. Et donc, forcément, ça implique un don de soi. Hein, c'est-à-dire que quand nous baignons dans le principe Christos, nous sommes dans le don. Et donc aussi dans l'acceptation totale de tout ce qui est. Il n'y a donc absolument aucun jugement. Maintenant, là, il y a le deuxième principe qui est appelé le principe Melchisédek. Hein? Alors, bon. Le principe Melchisédek, eh bien, c'est en fait l'aspect géométrique de cette vibration, c'est-à-dire de celui qui va aider à la mise en place, d'une certaine manière, de cette géométrie qui permettra à la vibration d'exprimer ses véritables qualités. Donc, eh bien, dans cette vibration Melchisedec, nous allons trouver les qualités suivantes. La droiture, parce que vous le savez que ici c'est de la courbe, ici c'est de la droite. Donc, nous allons trouver une droiture. Cette droiture va forcément être obligée d'amener ce qu'on appelle une clarté. Parce que généralement, ici, c'est comme une musique, vous pouvez mettre 25 instruments, 50 instruments, 200 instruments, c'est le bordel. Alors ça peut être très très harmonieux, ça peut être très beau, très génial, très tout ce que vous voulez, mais globalement, vous n'arrivez plus à savoir c'est qui fait quel bruit, entre guillemets. Donc le principe Melchisédek, cette géométrie, doit être claire, de dire, ah ça c'est un bassiste, ah ça c'est un violon, ah ça c'est du cuivre, ah ça c'est, etc. Donc ça doit être clair. Ensuite, cette clarté va forcément amener une notion de justice. C'est-à-dire que si dans l'orchestre, eh bien, il y a trop de cuivre ou trop de tambour ou trop, par exemple, de violon, eh bien, il va y avoir des choses qui ne vont pas jouer en termes d'harmonie. Donc, ils vont avoir cette notion d'équilibre, entre guillemets, et cet équilibre, c'est simplement la sagesse. Donc l'objectif du principe Melchisédek est, vous pouvez le comprendre, un aspect masculin, c'est-à-dire celui qui va, par l'expérience acquise, par la sagesse, pouvoir, entre guillemets, déterminer ce qui est juste, ce qui ne l'est pas, par rapport à l'équilibre, bien sûr, mais pour cela, il doit être clair, et pour être clair, il doit être droit dans ses bottes, c'est-à-dire d'être dans une droiture, et appliquer les principes, on va dire, à la lettre. Donc, quand vous associez, on va dire, cet aspect masculin à la vibration, qui est l'amour, la compassion, le don de soi et le partage, eh bien, alors à ce moment-là, eh bien, vous avez effectivement quelque chose que l'on va appeler, si on réunit ces deux principes d'une manière, on va dire, parfaite, eh bien, ça va s'appeler le grade de Christ. Voilà. Donc, comprenez que Christ, c'est un état d'être qui demande en fait d'exprimer l'amour, la compassion, le don de soi et le partage, bien sûr, pour tout le monde, hein. C'est-à-dire donc c'est vraiment un service à autrui, mais qui en même temps va demander une maîtrise de ce qui se passe. En clair, eh bien, ceci, on va appeler ça la connaissance, celui qui est né avec. Parce que par l'expérimentation, eh bien, il a découvert les lois et il les suit. Donc c'est l'aspect, on va dire, applicatif des choses, l'aspect dans la matière. Alors que là, c'est un état d'être. Donc un état d'être associé à la matière, vous avez effectivement le parfait équilibre entre, on va dire, la non-matière et la matière. Voilà, donc ça c'était déjà pour vous donner, dans un premier temps, ce qui se cache derrière la loi unitaire originelle. Alors bien sûr, nous provenons tous de cette loi unitaire en tant qu'esprit. Voilà, donc maintenant, eh bien, nous allons regarder qu'est-ce qui s'est passé en passant dans le septième super-univers, où de la simple dualité, nous allons passer à la double dualité. Donc il y a un historique qu'il faut comprendre, et comme je l'ai mis ici, c'est une transformation inévitable. Alors, commençons par la première étape où j'ai écrit au début du septième super-univers, la dualité est simple et tout le monde tourne dans le sens évolutif, c'est-à-dire celui du féminin. Puisque, on va dire, depuis le premier super-univers, tout est en expansion. Premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième. Et ça va continuer. Huitième, neuvième, dixième, onzième, douzième. Mais nous savons qu'à partir du septième, eh bien, nous devons passer à la double dualité. Il y a des raisons derrière tout ça. Hein. C'est les jeux se compliquent, puisque la simple dualité, qui était celle d'associer le principe Christos avec le principe Melchisédek, eh bien, a été remplie. Sinon, le septième super-univers serait pas né, tout simplement. Hein, je vous rappelle que dans ma classification, vous avez le monde minéral, végétal, animal, humain, surhumain et entité. Donc, vous devenez une entité quand vous avez effectivement contrôlé et maîtrisé la totalité de tout ça. Donc, que vous êtes en gros un Christ. Voilà, donc ça, c'est le truc de base qu'il y avait quand le septième super-univers est né. Donc, ce super, septième super, enfin, le début, au début de ce septième super univers, eh bien, nous avions quelque chose de relativement simple. Alors, j'ai représenté les lignes en rouge pour simplement y mettre, on va dire, un début de dualité, c'est-à-dire celui du féminin, c'est-à-dire le principe christique, l'amour christique qui est là. Donc, l'objectif, c'était que, effectivement, chaque entité tend, via l'apprentissage, d'atteindre le grade de Christ dans des fréquences dimensions, mais de plus en plus élevées. Donc ils ont commencé gentiment en 3D, 4D, 5D, 6D, etc., 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 pour arriver jusqu'aux dimensions, on va dire, ultimes. Donc ça, c'était ce qui était compris à l'origine par toutes les entités et tous ceux qui participaient à l'élaboration de ce septième super-univers. Et puis, à un moment donné, eh bien, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Il y a eu, donc il y avait ceci, et il y a eu, on ne sait pas d'où c'est sorti, mais bon, on peut dire que c'est le surnom qui, quelque part, a donné un petit coup de pichenette pour que ça se passe, une double permutation survint subitement, créant un opposant et une inversion du sens de rotation. Alors, vous allez comprendre que cette... On a commencé déjà, pardon, vous mettez dans l'ordre que vous voulez, c'est pas grave, parce que les deux se sont faits dans un temps relativement réduit, il y a eu une inversion de sens. C'est-à-dire que là, au lieu de continuer à tourner dans le sens évolutif, hop, ça a passé en inversion. Donc vous imaginez par exemple la planète Terre qui tourne, on va dire, d'est en ouest, et bien d'un seul coup passe de l'ouest en est. Alors là, ça vous change déjà quand même la donne, parce que vous ne tournez plus dans le même sens, et on va dire c'est un changement de rotation de la planète, et là on a quand même un souci. Donc c'est ce qui s'est passé, on va dire, dans le principe, dans le septième super-univers au tout début. Et puis bien sûr, il y a eu une deuxième, on va dire, impulsion, enfin impulsion secousse, éclair, comme vous voulez, qu'on a appelé tout simplement le basculement. C'est-à-dire une inversion de polarité. C'est-à-dire que l'aspect masculin qui était, on va dire, en bas, hein, c'est-à-dire l'aspect matériel, il y avait la vibration, il y avait la géométrie, eh bien, la géométrie a été mise en avant au détriment de la vibration. Donc nous nous retrouvons effectivement quand nous mettons tous les trucs ensemble, eh bien, nous retrouvons qu'il y a eu une double, on va dire, permutation. D'abord, dans un premier temps, de rotation, de sens de rotation, on est passé de l'évolutif à l'involutif, et ensuite d'un basculement qui s'est fait dans, on va dire, la population. Alors, ça a commencé par un individu qui ensuite a pris, on va dire, le taureau par les cornes et l'a disséminé à travers tout le septième super-univers. Enfin bon, vous aurez ça par la suite, hein. Donc, imaginez aujourd'hui, et vous le verrez et vous le comprendrez par la suite, qu'aujourd'hui, nous sommes sur notre planète dans une inversion de polarité. C'est-à-dire que nous allons refaire le chemin inverse, c'est-à-dire que de la polarité masculine, c'est-à-dire un mental, une géométrie qui, entre guillemets, oppresse littéralement une vibration, eh bien, nous allons faire ceci. C'est-à-dire que la planète va remettre la vibration en premier avec le matériel en dessous, c'est la géométrie en dessous. Et donc, quand nous voyons aujourd'hui sur notre planète une inversion des pôles, c'est en fait un retour, on va dire, en arrière pour retrouver l'état christique initial. Hein? Et donc, vous verrez ça dans la neuvième étape, quand j'en aurai fini. Pour l'instant, on a la deuxième, que vous allez voir que nous ne faisons que rebrousser chemin, entre guillemets. Hein? Alors, maintenant, pour des raisons de représentation, vous pouvez comprendre qu'il m'a fallu, mettre ça sous une forme, on va dire, de double dualité. Donc, maintenant, la représentation que j'ai prise, eh bien, vous avez ceci, c'est-à-dire que vous avez bien sûr toujours ce principe, on va dire, christique initial des six premiers univers, qui va se retrouver là. Donc, ça va dire un féminin. Féminin, féminin, simplement que, comme ici je l'ai représenté, ce qui était masculin ici est devenu bleu. C'est-à-dire qu'on va avoir un yin masculin. Et nous allons aussi avoir, eh bien, maintenant, eh bien, un complémentaire en face qui va se retrouver dans cette position, c'est-à-dire un mental, une géométrie qui est dominant. Donc on l'a mis sur couleur vert, hein, donc c'est bien un masculin dominant dans lequel il va y avoir une vibration qui va être, excusez-moi, dominée. En effet, quand vous regardez là, ici vous êtes dans la vibration, et ici c'est la géométrie qui permet à la vibration de prendre connaissance. Mais s'il n'y a pas de vibration, il n'y a pas de géométrie. Donc on voit bien que celui-ci vient après. Et là, eh bien, nous allons avoir, on va dire, un peu le même principe, simplement que ce masculin, ben cette matière, va être celui qui donne le ton et l'autre va s'adapter. Et donc, voilà donc la représentation, la nouvelle représentation que j'ai donnée. Et vous comprendrez que si dans la vidéo précédente où j'avais fait quelque chose comme ça, les gens disaient, mais oui, mais ici ça devrait être noir, là vous allez voir que c'est pas tout à fait ça. Hein, et c'est une représentation quand nous représentons, on va dire, le yin-yang quadruple, hein, c'est-à-dire en double dualité et avec seulement deux couleurs, est en fait un message involontaire. Eh oui, parce que quand il y a quatre polarités, eh bien, on a représenté en disant, voilà, si c'est blanc, c'est blanc, si c'est noir, c'est noir. Or, la problématique, c'est en faisant cela, eh bien, vous induisez en fait un raisonnement faux sur une base vraie. Et bon, ça fait partie de tous les trucs vicieux que nous avons récupérés en notre monde. Maintenant, nous allons voir, après ceci, qu'est-ce qui s'est passé. Donc là, eh bien, nous passons à l'étape 3. De l'harmonie, on passe à l'opposition, à la guerre, à la confrontation directe. Puisque ici, vous avez quelque chose de tout blanc qui va essayer, ben, qui va essayer de continuer le monde qu'elle connaissait ici, pendant que celui-ci est en train de se développer. Donc c'est bien un déploiement de la double dualité et aussi déploiement du nouveau jeu en accord avec les nécessités du deuxième cercle atomique. C'est une nécessité. Donc, on va dire que l'involution devait se propager dans le septième super-univers. Alors, cette propagation, bien sûr, a amené une problématique absolument inconnue. Car avant qu'il y ait cette double dualité, tout le monde ne recherchait qu'une chose, devenir Christ, et ça semblait normal. Il n'y avait donc aucune opposition, aucune personne qui boffait l'autre, aucune autre personne qui voulait avoir raison parce que l'autre il avait tort. Non, il y avait simplement la vibration, il y avait la source, et à ce moment-là, eh bien, tout individu, toute entité ne demandait qu'une seule chose, c'était tout simplement de devenir en équilibre et d'être dans l'amour christique. Donc maintenant, voyons ce qui s'est passé par cette confrontation. Alors, ce qui s'est passé déjà dans un premier temps, c'est que pour que si ça devienne tout noir, c'est-à-dire il a fallu que quelqu'un tourne sa veste. Or, ce quelqu'un qui tournait sa veste était forcément dans l'amour christique, puisqu'il n'existait que cela avant. Et c'est si ça avait été, on va dire, une entité toute jeune, ayant peu de pouvoir, c'est-à-dire ayant expérimenté que quelques dimensions, bah, ça aurait pas pété loin, il serait fait littéralement laminer par ceux qui étaient dans les plus hautes dimensions. Or, il s'est avéré que ce personnage était à la tête, on va dire, des plus hautes dimensions. Donc, il y a eu une fracture. On va dire, bah, il y en a un qui s'est retourné, quoi, tout simplement. Hein, comme je vous l'ai dit, il s'est retourné. Alors, ça a pas pris des milliers, des milliers, des milliers d'années. C'est que l'individu, au départ, bah, s'était dit, je suis Christ là et je suis là pour développer et mettre en œuvre tout ce qui touche l'aspect christique. Et progressivement, il a commencé à remettre en cause un certain nombre de choses. Comment c'est venu, bon, on le sait plus ou moins, mais on ne va pas aller dans les détails par rapport à cela. La seule chose qu'il faut comprendre, c'est qu'il a commencé à remettre en cause l'aspect, on va dire, global du respect. Dans le sens où, par exemple, quand un individu, une entité, voulait, sentait qu'il fallait faire quelque chose, car ils savaient tous qu'ils étaient donc une incarnation du sans-nom, ils disaient, bah, j'ai plus qu'à suivre ce qu'il y a en moi. Et il s'est avéré que cette technique demande d'avoir un total respect de toutes les formes de vie, de toutes les entités. Et donc forcément, c'est aussi un frein aux choses. Vous dire, bah tiens, j'aimerais planter, je sais pas, j'aimerais planter un truc là dans le champ. Oui, mais il faut demander l'autorisation à tout le monde, c'est-à-dire à toutes les formes d'entités et de vie. Alors, il faut demander aux aides de la nature, il faut demander aux planificateurs, il faut demander. Enfin bref, donc c'était un espèce de truc qui n'était pas démocratique du tout. C'est-à-dire que il y avait une règle unitaire qui dit, voilà, si quelqu'un veut faire quelque chose, il va falloir qu'il demande au conseil si c'est d'accord. Et tous les membres du conseil doivent dire oui. Donc s'il y en a un qui dit qui met son veto, bah, ça ne peut pas marcher. Donc, c'était considéré par ce personnage comme un frein. Et il s'est dit, eh bien, moi je suis pas d'accord, parce que si 99,99%, on va dire, du conseil est d'accord, mais que 0,1% n'est pas d'accord, on va quand même pas se faire chier pour 0,01%. Donc, on va jouer à la majorité. De ce fait, par cette attitude, il a introduit une séparation, c'est-à-dire que il s'est dit, ben nous, si on est dans les planificateurs et qu'on a tous les pouvoirs, pourquoi on va se faire emmerder par un petit nain par-ci ou par un petit truc par-là, quoi. On n'a rien à battre, on fait le truc. Et ils n'auront qu'à suivre. Et donc cette façon de penser a amené ce que nous appelons, nous, en ce monde, la démocratie. C'est-à-dire que c'est le plus fort qui gagne. Et vous pouvez comprendre que cette démocratie est en fait une véritable saloperie, puisque c'est par définition le non-respect d'une partie de la création. Donc si vous êtes de gauche, ben vous allez vous battre contre ceux de la droite. Et le plus fort l'emportera. Donc le résultat, si le plus fort l'emporte à 51%, vous en aurez 49% qui ne seront pas d'accord et qui vont tout faire pour pas que ça marche. Donc En ce sens, vous pouvez dire une chose, c'est que ça ne sera pas unitaire et que ça va mener au bordel, au chaos. Et donc, c'est ce que nous verrons au fil de l'histoire, non seulement de l'humanité, mais de tout ce qui s'est passé au niveau du 7e super-univers, eh bien, il y a eu de plus en plus de chaos. Et donc, forcément, puisque cette entité de plus haut niveau qu'il y avait, eh bien, avait bah, tous les pouvoirs, c'est-à-dire qu'il pouvait. Il avait accès, il était en amour christique total, mais simplement, il a eu une impulsion de dire, voilà, maintenant j'aimerais changer les règles du jeu parce que moi je sens qu'il faut que je les change. Je sens qu'il y a eu une injustice quelque part et que, bon, il y en a marre de ne pas pouvoir faire ce qu'on veut parce que tout simplement, il faut que tout le monde soit d'accord. Donc si vous avez, par exemple, dans le système de l'ONU, vous savez, c'est le système de l'ONU, vous avez donc 5 ou 6, on va dire, nations qui, soi-disant, ont la bombe atomique et donc ont le droit de veto. Mais tous les autres, ils n'ont aucun droit de veto. Donc on retrouve exactement le même principe et il s'est dit, le droit de veto, on va les donner au plus fort, mais pas tout le monde, parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Et donc c'est ça la règle involutive, c'est-à-dire de dire il y aura des plus forts, il y aura des moins forts, il y aura des dominés, il y aura des dominants. Partant de là, nos chers planificateurs et autres, enfin je veux dire ceux qui étaient, voilà, ils se sont dit mais qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'il semblait absolument inarrêtable, tout simplement, normal, il avait tous les pouvoirs. Hein? Donc, ce personnage a été, on va dire, mis en équation, entre guillemets, dans nos différents écrits, dans nos différents X, Y, Z, et il est connu sous le nom, enfin, je vous traduis pour les humains, Satan ou Ahriman. C'est-à-dire, Ahriman, c'est celui qui met la matière en avant, et Satan, bah, c'est celui qui n'est pas d'accord et qui dit, voilà. Toi tu dis ça, mais moi je vais faire ma voix aussi. Donc Satan est quand même empreint, on va dire, d'une qualité d'équilibre, de clarté, de tout ce que j'ai donné ici, avec une droiture, tout ce que vous voulez. Simplement, il va les modifier selon l'angle de la matière et selon l'angle de la géométrie d'abord. Donc, quand on est droit dans ses bottes, eh bien, même si on nous dit faut, maintenant tu es à côté de la plaque, tu continues droit devant, hein, quoi qu'il arrive. Tes buts seront clairs. Ta justice, ça sera la tienne qui sera celle de la matière, tout simplement, qui dit si j'ai du pognon, toi tu n'en as pas, alors tu vas devenir l'esclave pour gagner du pognon. La sagesse, c'est moi qui détiens la connaissance, puisque ici nous étions au niveau de la connaissance. Eh bien, je détiens la connaissance et bah, moi, je vais distiller selon mes bonnes envies et selon ton obéissance un certain nombre de savoirs. Donc, quand nous sommes dans cette partie involutive, eh bien, la première règle, c'est de dire comment peut-on accéder à ce savoir. Et donc, si j'ai du savoir, eh bien, forcément, ça veut dire qu'il m'en manque. Parce que ça veut dire que je n'accède plus à la connaissance. Et cette connaissance, comme vous pouvez le comprendre, provient de la source, puisque la source est. Donc tout est dans la source. Or, prendre le chemin, on va dire, de la matière et en le mettant en avant, en disant c'est moi, mon mental qui va gouverner, hein, selon ma personnalité, eh bien, vous vous êtes coupé de la source. Et donc, comme vous vous coupez de la source, eh bien, vous êtes en manque. Et comme vous êtes en manque, vous allez devenir un prédateur, c'est-à-dire aller chercher ce qui vous manque ici. Donc, il y a eu une guéguerre. Donc, ici, ce Satan, on va dire, ou Ahriman, a bien sûr amené des arguments comme dire il faut mettre en place des démocraties et arrêter cette espèce de pouvoir non dit, unitaire, qui dit qu'il faut que tout le monde soit d'accord et qu'on soit dans le respect total de tout. Alors, moi, pas d'accord. Moi, je dis maintenant, on va travailler à la démocratie. Et si j'ai envie de quelque chose, j'irai le prendre. Puisqu'il appartient aussi bien à nous qu'aux autres. Et donc, d'où ce côté conquérant. Parce que ce côté conquérant a été induit par, en fait, la coupure avec la source. Donc, si le noir ici, le conquérant, ne va pas conquérir, eh bien, il crève. Et donc voilà pourquoi les guerres se sont développées. Alors, ces guerres ont apporté forcément une cristallisation, on va dire, au niveau du monde christique, puisque tout le monde était en paix, puisque tout le monde marchait dans le même sens. Donc il ne pouvait pas y avoir de guerre. Ça n'existait pas. Et c'est pour ça que du cercle, on va dire, rouge ici, hein, j'avais mis rouge-rouge, hein, ou ce côté masculin qui était rouge, eh bien il est devenu bleu. Il est devenu bleu parce que il a fallu que des entités christiques se disent, il faut quand même qu'on ne se laisse pas marcher sur les pieds. Il va falloir quand même remettre, on va dire, dans le droit chemin ces individus-là. Rappelez-vous, hein, le côté, le principe Melchisédek, droiture, clarté, justice. Et donc quand il y en a un qui quitte les rangs, on lui dit, attends, là, tu es en train de jouer à contre-courant, tu joues quoi là? Donc, petit à petit, eh bien, un certain nombre d'entités ici se sont fait, on va dire, polluer. Parce que, à force de guerre, ben, si vous voulez, vous avez un adversaire en face de vous, si vous n'apprenez rien sur lui, si vous ne savez pas comment il se bat, si, ben, vous allez avoir de gros soucis. Donc, forcément, vous allez, au fur et à mesure des combats, des batailles ou de la diplomatie entre guillemets conquérante, hein, qui vous dit voilà, attends, moi je suis un diplomate, ça veut dire un menteur complet qui va pas montrer son jeu, mais qui va arrondir les angles pour te faire croire qu'il est lumière, mais derrière, il va t'entuber comme il peut. Donc, ça s'appelle des diplomates. Donc ces diplomates, on en a partout, hein, des ambassades, etc. C'est bourré de diplomates. Et diplomate, c'est quoi? C'est dire, je vais essayer de trouver le juste milieu entre les deux opposés, mais en fait, dans la réalité, toujours dans le gain, si possible, du pays que je sers. Voilà, hein, donc ils arrondissent les angles, en fait. Mais ce sont, par définition, des menteurs et des manipulateurs. Donc ce qui se passe, c'est qu'un certain nombre d'entités qui étaient donc dans l'action, dans la matière, parce que ça, c'était l'aspect matière de cette... on va dire de cette partie-là, de cette partie christique, hein, la partie on est dans la matière, on est dans le corps et on vibre ce corps, eh bien, se sont fait progressivement polluer par ce côté conquérant. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, ah oh ouais, les autres, ils nous envoient du bastos, et ben, nous, on va faire quoi? On va leur sourire, leur envoyer des grands trucs, enfin des grands trucs, des grands sourires, des vagues d'amour. Ça marche pas parce qu'ils sont tellement déterminés et tellement coincés dans leur direction en disant non, ça sera comme ça et pas autrement, eh bien, il a fallu que eux aussi développent, on va dire, des armes. Il a fallu qu'ils développent des défenses. Il a fallu qu'ils protègent l'acquis, entre guillemets. Et donc, c'est pour cela que dans le 7e super-univers, eh bien, progressivement, ce fameux, on va dire, Satan, entre guillemets, a commencé, bah, à conquérir. C'est-à-dire, il a été voir le système solaire d'à côté, puis l'autre d'à côté, etc. Et petit à petit, il s'est gagné quelques galaxies, puis d'autres galaxies, etc. Et donc, la problématique, c'est que ici, on va dire, les êtres de lumière, eh bien, se sont retrouvés coincés dans le sens qu'ils sentaient une impuissance totale à arrêter ce mouvement de ce fameux Satan qui avait effectivement tous les pouvoirs. C'est-à-dire qu'il avait reçu toutes les initiations inimaginables. Donc c'était un Christ en puissance, d'une puissance colossale. On lui avait tout donné. Il était le top du top du top. Et il a retourné sa veste. Alors, bah, ça a introduit un malaise assez sérieux, on va dire, ici, chez les êtres de lumière qui ont été obligés, bah, de guerroyer avec eux. Bah, guerroyer contre eux, on va dire, hein, plus précisément. Donc, cela faisant, on a petit à petit, ici, notre cher Satan et donc tous ceux qui l'ont suivi, les autres peuples qui l'ont suivi, eh bien, ont perdu progressivement cet aspect lumineux qu'ils avaient au départ et ont commencé à se dire, mais je vais utiliser ce que je sais des énergies, ce que je sais de tout ce que l'on m'a appris en étant Christ, je vais l'utiliser pour vraiment appuyer encore plus fort l'aspect dominateur d'abord. Donc, eh bien, cette partie blanche est devenue grise à son tour. Et donc là, on commence à voir qu'il n'y a plus de blanc, il n'y a plus de noir, il commence à y avoir du gris entre les deux, et ça commence à changer la donne. En effet, c'est que ici, à force de guerroyer, il y a donc un certain nombre d'entités qui ont commencé à baisser les bras. Ils disent, mais on ne pourra jamais les arrêter en face. C'est pas possible. Ils ont tous les pouvoirs. Et nous, puisque nous sommes Christ, nous ne pouvons pas répondre dent pour dent, œil pour œil. Et pourtant, un certain nombre ont essayé parce qu'ils pensaient et croyaient fermement qu'ils allaient rétablir cette énergie christique à travers toute la galaxie du 7e super, enfin, toute la galaxie, tout le 7e super univers. On peut dire que grosso modo, le 7e super univers s'est développé d'abord dans l'amour christique et ensuite a commencé à se faire polluer, tout simplement, hein, contaminé. Et donc, il jouait contre la contamination, bien sûr. Mais ça a entraîné des dérives et des malaises. Et donc, ces entités étant de plus en plus mal à l'aise, eh bien, ont commencé à avoir des comportements, on va dire, qui n'étaient plus tout à fait en accord avec les énergies christiques. C'est-à-dire, ils pensaient plus la guerre, ils pensaient plus défense, ils pensaient plus à bastonner l'autre, pour se défendre, hein, mais aussi pour reconquérir les territoires qui s'étaient fait conquérir. Enfin bref, ils étaient devenus plus véritablement Christ. C'est-à-dire, ils ont, d'une certaine manière, chuté en vibration. Et comme ils commençaient à utiliser les mêmes armes, on va dire, que l'opposition, eh bien, ils ont été progressivement mis, entre guillemets, sur des planètes prison, parce qu'ils ont été considérés comme des déviants. Normal. Vous transformez en ange, en Rambo, à la fin, parce qu'en face, il y a un super Rambo tout noir qui veut tout bouffer, ben, voilà. Ils sont devenus gris, ils sont devenus des Rambos, et ils se sont retrouvés en tôle. Parce que bah, eux-mêmes participaient à la contamination du 7e super univers, sans le vouloir, simplement, en étant simplement réactifs à cette invasion, à cette pollution. Et donc là, les planificateurs, quand ils ont vu ça, ils se sont dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on laisse le super univers, le 7e super univers, continuellement en guerre, parce que ça a duré des... on va dire, des éons. Alors quand ils disent des éons, c'est des milliards d'années pour nous. Donc, ils ont dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on trouve une solution. Et donc, la solution, ce qui nous fait passer à l'étape 4, et donc, la solution a été de se dire, bah, puisque maintenant, nous avons, on va dire, tous les éléments en main, nous allons créer un endroit dans ce 7e super univers où, qui va servir d'éprouvette. Un endroit où on va pouvoir mettre tout le monde dedans et voir ce qui se passe à ce niveau-là. Donc c'est simplement l'éprouvette, c'est-à-dire que vous prenez le virus, vous le mettez dans l'éprouvette et vous dites, bon voilà, maintenant on va essayer de trouver l'antidote dans l'éprouvette. Et donc cette éprouvette a été tout relativement très simple, c'est la création donc d'un système solaire, le nôtre, modèle réduit du 7e super univers, ayant pour objectif de trouver la solution, c'est-à-dire l'antidote à la disharmonie, et donc retrouver l'état christique. C'est ainsi que l'éprouvette Urantia naquit. Voilà, donc la planète Urantia est donc le bac à sable où va s'affronter. Dans une... vous savez que le monde est, comment dire, fractal, et donc on met tout dedans. Et donc c'est pour cela que sur cette planète Urantia, eh bien, il y a eu la mise en place de toutes les formes de vie qui existaient dans le 7e super univers. En quelque sorte, c'est la caverne d'Ali Baba. En effet, si vous êtes un scientifique, vous n'allez pas dire, voilà, bon, dehors, il y a 36 éléments, et puis je vais dire, bah, tiens, je vais faire une éprouvette, j'en mettrai que 10. Non, vous allez mettre les 36, parce que sinon, vous allez manquer quelques paramètres. Et donc, cette planète Terre a donc été créée à cet effet. Donc, elle a été, dans un premier temps, elle s'appelait donc Urantia, puisqu'on verra plus tard comment elle va s'appeler Gaïa, enfin, ça va se rajouter à Gaïa. Et donc, il y avait donc absolument tout. Or, toutes les formes de vie. Et, rappelez-vous ici, nous sommes dans l'élément eau, et nous allons vers l'amour solaire. Et parce que ici, en étant dans ce 7e super univers, on a mis les pieds dans l'eau, comme on dit. Donc, l'idée est venue de là. Donc ils se sont dit, voilà, nous allons mettre tout ça en place. Ils mettent tout ce que nous pouvons y mettre, parce que c'est comme ça que ça marche. Hein, d'accord? Et nous allons donc passer on va dire, à la cinquième étape. La cinquième étape a consisté, après l'implantation du décor, c'est-à-dire Urantia, de mettre les premiers joueurs, de faire apparaître les premiers joueurs. Donc les premiers joueurs, qui ont été les premiers joueurs? Eh bien c'est simple, ça a été ceux qui étaient pollués. Tout simple. On se dit, ils ont été pollués, l'objectif est de combattre l'ombre, donc comme ils ont combattu l'ombre, c'est les meilleurs, entre guillemets, éléments qu'il puisse y avoir, parce que si on envoie un Christ tout court affronter l'ombre, il va peut-être pas pouvoir en faire grand-chose. Donc on va déjà envoyer ceux qui sont volontaires pour, on va dire, une rédemption, c'est-à-dire à revenir à leur état originel de Christ. Mais en venant, ils savent qu'ils ont chuté. Ils savent qu'ils ont commis des meurtres, qu'ils ont été irrespectueux, parce que la guerre entraîne forcément des dommages collatéraux. Ils savent, ils se sentent coupables d'être tombés dans le piège. Donc ils viennent avec, on va dire, pas un karma, mais des sentiments qui sont malheureusement que nous avons tous aujourd'hui. Car dites-vous bien que sur cette planète Terre, la totalité des entités qui sont venues, à part ceux qui se sont fait choper en tant que curieux, sont en fait des Christs déchus. Ça veut dire des Christs ayant perdu l'équilibre masculin-féminin et qui, pour des bonnes raisons, ont préféré, on va dire, combattre pour arrêter cette invasion, cette contamination. Voilà, donc bien, on peut dire que les planètes prisons qu'il y avait donc dans le 7e super-univers qui étaient non contaminées, eh bien, s'est vidé d'un certain nombre d'individus qui se sont dit, ben, moi, au lieu de rester là sur une planète prison comme un déviant, parce que je conçois que je suis un déviant, parce que j'ai perdu mon unité christique, eh bien, je vais aller sur cette planète, dans l'éprouvette, je suis volontaire. Car mon objectif, c'est effectivement de me nettoyer de tout ça et de retrouver mon état christique. Donc on peut dire que toutes les entités qu'il y a aujourd'hui, tous les esprits directeurs, pour être plus précis, qu'il y a aujourd'hui sur cette planète, hein, qui sont forcément dans le soleil, hein, rappelez-vous, ici nous sommes dans l'amour solaire, eh bien viennent exactement, ils savent pourquoi ils viennent sur cette planète. Voyez, donc le jeu de l'apprentissage, donc à ce moment-là, Urantia devient Urantia Gaia. Et le jeu de l'apprentissage de la double dualité dure peut commencer dans un milieu confiné et prévu à cet effet. Donc la planète Terre est bien le bac à sable où, entre guillemets, ça va bastonner et où il va y avoir, on va dire, de la baston, hein, tout simplement. Puisque nous avons des conquérants christiques, donc on va appeler des guerriers de lumière, et vous avez des conquérants qui sont, eux, plutôt dans la lumière sombre, qui dit, puisqu'on s'est coupé de tout, eh bien, il va falloir qu'on arrive quand même à vivre, et donc on va essayer de sucer tout ce qu'on peut. Donc, ce sont des destructeurs de planètes. Et c'est pour ça qu'un certain monsieur bleu nous a traités de destructeurs de planètes, car nous sommes des destructeurs de planètes. Si nous n'arrêtons pas ce que toutes les conneries que nous faisons actuellement en termes d'humanité, la planète mourra. Donc nous sommes bien des destructeurs de planètes. Donc quel que soit le guerrier de lumière qu'il y a sur cette planète Urantia Gaia, nous sommes contaminés. Donc c'est pas la peine de vouloir faire la chasse aux implants, aux involuants et de vouloir les tuer, car en fait, ce n'est pas comme ça que vous allez arriver à redevenir Christ. Puisque cela veut dire que vous êtes encore dans la dualité. Alors, le truc que sera entraîné, eh bien, c'est que donc un certain nombre, on ne peut pas dire tous, hein, mais on va le dire, va faire que la partie christique, on va dire unitaire, du 7e super-univers, a pu donc, d'une certaine manière, se nettoyer de ceux qui avaient été contaminés. Donc déjà, ça leur a permis de retrouver, on va dire, un bol d'air. Et on verra que ce bol d'air a eu, on va dire, une conséquence, évidemment. puisque imaginez qu'il y avait donc des planètes qui se faisaient conquérir, hein, par, on va dire, les armées sataniques, et nombre de civilisations et de planètes sont dit soit on est dans le combat, ou soit on monte dans des dimensions supérieures qu'ils ne connaissent pas, puisque s'ils sont à ce niveau-là, ils ne pourront pas monter aussi haut, et à partir de là, on leur devient absolument transparent. Et c'est pour ça que dans notre super-univers, il y a donc un certain nombre de civilisations, de planètes, de systèmes solaires qui sont invisibles. Mais ils sont là. Et ils attendent de voir ce qui se passe. Et c'est pour ça que nous verrons que la Confédération Galactique, hein, est une interface. La Confédération Galactique est tout simplement l'interface qu'il y a entre la truc de contact. Excusez-moi là, hein, voilà. Enfin, bon, j'avais relié les deux. C'est le truc de contact de ce côté rouge avec le côté noir. Donc ici, entre les deux, il y a une couche qui s'appelle la Confédération ou la Fédération Galactique des mondes libres, c'est-à-dire de ceux qui ne sont pas occupés. Et cette fédération galactique a pris de plus en plus, on va dire, a vu venir de plus en plus de membres se déclarer à fur et à mesure que nous nous rapprochions, on va dire, de l'année 2012. Parce que l'année 2012, je vous le rappelle, est la fin du jeu. Donc petit à petit, ils ont commencé à regarder par la fenêtre et se sont dit, ah, il se passe quelque chose et il va falloir donner de notre énergie, de nos dimensions supérieures, il va falloir donner un peu plus de patates. Donc nous allons donner de l'aide. Alors bien sûr, cette aide nous est absolument invisible par les yeux, parce que nous sommes coincés dans un monde de matière de 3D 4D où nous ne voyons qu'avec nos yeux, nous entendons qu'avec nos oreilles, nous goûtons avec notre bouche, nous sentons avec notre nez, et puis ben le toucher, c'est ben, quand on nous touche quoi. Mais en fait, ce monde invisible est autour de nous, et c'est seulement quand nous allons à l'intérieur de nous que nous pouvons prendre contact avec eux. Donc eux ont la capacité de se matérialiser en allant jusqu'à la 5D. Mais en dessous, après, ils ne peuvent plus. Voilà pourquoi il est dit que si vous voyez une petite soucoupe volante venir et que vous la voyez avec de la matière, vous êtes mal barré. C'est-à-dire, c'est pas eux. Alors, maintenant, regardons ce qui s'est passé. Donc, quand on va dire, on en est arrivé à ce stade, eh bien, il y a eu une intervention d'un être de lumière qui s'appelle Lucifer. Le porteur de lumière, pour accélérer les choses et aider les entités de lumière, c'est-à-dire les guerriers de lumière qui sont passés donc de là à là, contaminés par l'esprit de la guerre. Et donc cette intervention, je la représente comme ça. Donc l'objectif de Lucifer était de dire, ben voilà, on va accélérer le jeu, je vais venir, je vais changer un petit peu les règles du jeu à ma façon, à moi, afin que nous arrivions à ce stade ici, c'est-à-dire que ça devienne blanc ici dans cette partie noire et que ce côté grisé disparaisse. Donc ça, c'est l'intervention de Lucifer qui dit, attends, il y a le sans-nom, ou il y a Dieu, comme vous voulez, mais moi je vais faire selon mes règles. Et donc en faisant cela, il disait, on va dire, ouvertement, je vais me la jouer au même titre que Satan. C'est-à-dire qu'après tout, hein, si lui, il fait selon sa volonté, ben moi je vais faire selon la mienne. Simplement, moi, j'y vais avec la lumière, alors que lui, il y va dans l'asservissement. Le résultat, on connaît qu'est-ce qu'il en est advenu. Hein, c'est-à-dire que forcément, Lucifer, en venant ici, en venant donner son aide, mais surtout en prenant la décision de se couper d'une certaine manière de la source, ne pouvait obtenir qu'une seule chose. Eh bien, le déclin. C'est-à-dire que quand nous ne sommes plus connectés à la source, forcément, arrive un moment, on manque d'énergie, on manque d'informations, et on va louper des marches. Et donc notre ami Lucifer a, en voulant aider pour avancer plus vite, pour aider les guerriers de lumière à vaincre plus vite, eh bien en fait a totalement accéléré les choses, mais dans le sens contraire. C'est-à-dire que nous avons chuté encore plus vite. En clair, vous étiez un peu rationné en énergie, et en voulant faire vite, au lieu de marcher tranquillement, en y allant à sa vitesse et tranquillos, eh bien, il a dit non, on court, on fait un 100 mètres. Le problème, c'est que l'autre en face, il a tenu le choc. Et bah, tu te retrouves essoufflé, tu n'as plus rien dans le coffre, et tu dis maintenant, on fait quoi? Et donc, le résultat, Comme Satan a vu Lucifer arriver, bah, il s'est dit, on ne va quand même pas se laisser faire, donc Satan réagit et envoie des troupes. La confrontation s'empire au point que ce dernier brandit à plusieurs reprises la destruction totale de la planète elle-même. De la planète, bien sûr, où Rentia Gaïa je parle. Donc ça veut dire de la possibilité de faire une paix durable. Car si on arrive dans l'éprouvette à trouver l'antidote, après c'est ok. Mais si on détruit l'éprouvette, on ne trouvera pas l'antidote. Et donc en jouant de ce... je trouve plus le mot, mais enfin bref, ce chantage, eh bien il a fallu que les forces de lumière, entre guillemets, prennent un petit peu de recul, ils disent oui, mais s'il fait tout sauter, faudra qu'on recommence tout à zéro. Et on n'a pas le temps, parce que là, lui, il contamine. Donc, et puis bah, ça va lui donner encore plus de confiance, et il ira encore plus fort. Donc, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc, c'est là que la Fédération Galactique des Mondes Libres change de tactique, car elle a compris le jeu, et sait qu'il y a une date butoir décidée par le sans-nom. Parce que la partie qui était restée en dehors, on va dire, de la bataille, a quand même vu que celui qui était là, qui était Satan, il avait quand même tous les pouvoirs, il était quand même capable de faire quelque chose, et que c'était quand même le sans-nom, parce que quand même toute entité qui est incarnée, quelle qu'elle soit, enfin incarnée dans les différentes dimensions, est le sans-nom. Donc l'idée même de vouloir tuer, anéantir, annihiler, est un blasphème vis-à-vis du sang. C'est une séparation. Donc, ils se sont dit, c'est qu'il y a anguille sous roche, il y a autre chose derrière. Et donc, en comprenant que, il y avait une nouvelle donne, ils se sont dit, eh bien, on va attendre notre heure, parce que là, le sans-nom a mis un timing, il a mis un planning pour que cette double dualité s'installe. Et donc, quand on va dire, le coup de sifflet final arrivera, eh bien, à ce moment-là, le sans-nom fera les choses nécessaires pour que tout se rééquilibre. Et donc, vous le savez comme moi, que cette fin de date était le 21-12-2012, par rapport à notre calendrier, bien sûr. Donc, elle attend son heure, mais en attendant, il faut préserver au maximum les ressources d'Urantia Gaïa et aider l'humanité grâce aux EDL, se rappelant encore qui ils sont. C'est-à-dire que ces guerriers de lumière, eh bien, comme dirait l'autre, bien qu'ils aient été contaminés, ils ont quand même su garder, on va dire, le contact avec, on va dire, leur esprit directeur et donc leur essence, d'une certaine manière. Alors, si la Fédération Galactique des Mondes Libres est là pour préserver au maximum les ressources de Rentia Gaïa, il est évident que si sur la planète tout est détruit par, on va dire, l'ombre, c'est-à-dire qu'on fait claquer les bombes nucléaires partout, et comme vous saviez, du temps de la guerre froide, on pouvait la détruire au moins 100 fois, hein, c'est-à-dire qu'on avait 100 fois plus de bombes qu'il fallait pour la détruire, c'est-à-dire que là, c'était une destruction totale de tout, 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 absolument tout. Et donc, ils se sont dit, on n'y arrivera pas, donc il faut préserver au maximum toutes les ressources, mais aussi toutes les formes de vie et tous ceux qui entretiennent le décor. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils sont toujours là à, par exemple, ôter une grosse partie de la radioactivité, parce que sinon, on serait déjà mort depuis belle lurette. Donc, en sous-main, sans rien dire, eh bien, la Fédération Galactique a pour objectif de pouvoir préserver les ressources au maximum. Car si on veut qu'une plante repousse, ce ne sera pas dans un sol absolument, totalement stérilisé. Donc, ce fameux Ashtar-Sheran, c'est-à-dire ce fameux commandeur, est tout simplement le chef de cette flotte, entre guillemets, qui est là pour intervenir sur toutes les planètes du 7e super-univers, et principalement de notre galaxie, parce que c'est bien sûr celle-là, puisque la Terre est dans cette galaxie, c'est surtout dans celle-là qu'il y a le plus de boulot. Et donc, son rôle consiste à tout simplement préserver les choses, mais de ne faire aucune intervention directe vis-à-vis des joueurs. Donc, il est invisible. Il est évident que plus, surtout à partir de la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, comme là, les involuants ont commencé à mettre franchement, on va dire, le paquet, pour la simple et bonne raison, c'est que ben, c'était une ère de transition pour l'ère du Verseau, eh bien, il a fallu qu'ils fassent quand même quelques interventions, mais ça a été des interventions, on va dire, via des canalisations. Et donc, c'est là que, bien sûr, l'ombre s'est dit, bon, écoutez, on va foutre un imitateur, on va mettre quelqu'un d'autre, enfin, on va demander à un acteur XYZ de prendre sa place vis-à-vis de ceux qui canalisent, c'est-à-dire en fait des imitateurs. Et donc, eh bien, aujourd'hui, bien, effectivement, nous avons affaire toujours à un problème de discernement. Qui est le vrai joueur, enfin, le vrai acheteur du faux? Et des faux, il y en a plein. Vous savez, c'est un petit peu comme le style de luxe, hein. Si vous avez une marque de luxe, eh bien, elle va se faire copier par. Chez nous, c'est par tous les Asiatiques, c'est-à-dire que grosso modo, c'est de la corruption à l'état pur. Mais ça, ce sont des méthodes absolument involuantes. Mais bon, il faut être conscient que si tout le monde veut des sacs à main Intel, parce que c'est considéré comme une grande marque et ça coûte très cher, il est complètement anormal de l'acheter à pas cher. Alors dites-vous bien que quelqu'un qui canalise d'un seul coup acheter Sherrone alors qu'il n'a rien demandé, sait qu'il vient d'acheter un sac à main à pas cher. Parce que généralement, ben, il n'a pas les sous pour on va dire, acheter véritablement ce sac à main. Ça veut dire, quand je dis les sous, c'est-à-dire les capacités. Les capacités de canalisation réelles. Donc il canalise quelqu'un de l'astral. Parce que sinon, s'il était véritablement en contact avec le vrai, eh bien, il aurait une vibration autrement plus importante. Voilà. Donc ça, c'était une petite aparté que vous devez comprendre. Donc le truc, c'est que comme l'intervention de Lucifer, voulant faire du ménage rapidement, en se disant cette guerre a duré un peu trop, ça a duré un peu trop, puis ça va continuer à la style 14-18, quoi. C'est-à-dire, ça va traîner, ça va traîner, ça va traîner, ça va traîner, et on va s'épuiser mutuellement, puisqu'il arrive à un moment, eh bien, quand il y a ce genre de guerre d'usure, il y a une espèce de stabilisation, d'équilibrage des forces. Et le résultat, c'est arrivé du côté de la Terre, bien sûr, c'est-à-dire que quand il y avait les Ricains, il y avait les Russes, eh bien, quel que soit celui qui appuie sur le bouton, de toute façon, ils étaient tous les deux morts. Donc, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus rien faire, ils se paralysent l'un l'autre, en utilisant, bien sûr, les mêmes outils. Donc, notre cher Lucifer, dans sa compassion, dans son envie de bien faire, eh bien, littéralement, a accéléré. On va dire l'emprisonnement. Et donc, Lucifer ayant réagi, il s'est dit, maintenant, puisqu'on sait à peu près où sont les guerriers de lumière, on va tout simplement s'en occuper plus sérieusement. Donc, le cercle, on va dire ici, eh bien, d'abord de rouge, il est passé à plus rien du tout, hein, c'est-à-dire que le côté christique a disparu, hein. Donc, ça veut dire que, grosso modo, les humains qui étaient des guerriers de lumière ont perdu. C'est-à-dire le germe christique, il est plus christique, il est devenu simplement une flamme. Hein, donc c'était encore allumé, on va dire. Et puis, ils s'en fait éteindre de plus en plus. Donc là, on va dire, on a un problème, comme on dit. Hein. Donc il va falloir passer au plan B. Donc voyons maintenant, à la septième étape, qu'est-ce qui se passe? Donc Lucifer, non seulement foire son coup, mais amplifie la décadence, donc la chute. Alors, intervention des Pléiadiens sur l'ADN humain pour nous transmettre la puissance des dieux, entre guillemets, afin que l'on s'en sorte face à l'implacabilité de l'ombre. C'est-à-dire que ce côté christique, nous ne l'avions pas dans notre ADN, câblé, parce que c'était un état d'être. Mais comme on s'est fait, entre guillemets, petit à petit pollué, eh bien, nous avons perdu ceci. Et donc, au lieu de l'avoir, on va dire, d'une manière éthérique, c'est-à-dire, je suis Christ, je suis en équilibre, et que comme on était complètement déséquilibré, ils ont dit, on va les câbler direct. C'est-à-dire que ça va être directement mis dans l'ADN, et comme ça, même si consciemment ils ne sont pas à la hauteur, c'est pas grave, ils l'auront en eux. Donc, c'est là qu'intervient la période, ce que j'appelle des Lémuriens, Atlante et Atlara. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, puisque ça a l'air de se barrer en banane, mais très sérieux cette affaire, eh bien, nous allons choisir un peuple, celui qui est le plus avancé, et nous allons leur implanter une couche lémurienne pour qu'ils se rappellent, qu'ils puissent le jour où ils seront capables de se laisser aller, c'est-à-dire d'écouter leur intuition et de suivre, eh bien, d'avoir cet aspect christique. Alors, les Lémuriens, eh bien, étaient en contact direct avec donc une civilisation galactique, des extraterrestres qui s'appelaient tout simplement les Pléiadiens. Donc, Quand comment dire, j'entends beaucoup de gens sur le chemin qui disent oui, on s'est fait trafiquer, les extraterrestres nous ont foutu des implants, etc. Dites-vous bien que vous avez des implants aussi bien évoluants qu'involuants. Donc quelqu'un qui veut se débarrasser de ses implants, en disant ouais, c'est des implants qui ont été mis par des extraterrestres, c'est quelqu'un qui n'a rien compris au film. C'est-à-dire que il peut ôter s'il s'amuse à ça. Et c'est pour ça que moi, ce que peut s'amuser certaines personnes, à dire vous pouvez modifier votre ADN en faisant ceci, en faisant cela, c'est vachement bien. Mais il y a une chose qui est claire, c'est que vous ne savez pas à quoi vous jouez. Puisque c'est votre mental ego qui vous mène qui mène le bal. Si vous voyez ça, un implant, je le verrai. Voilà. Donc, concrètement parlant, eh bien, nous nous sommes fait trafiquer notre ADN aussi bien par Satan, on va dire, je résume, hein, Satan, avec bien sûr toutes les cliques qu'il y a derrière. Donc, par exemple, les Dracos sont un peuple, une civilisation, enfin un peuple, ce sont des individus qui ont été fabriqués par des pièces détachées de Satan. C'est-à-dire que Satan s'est amusé à prendre un peu tout partout et à les assembler. Donc, ça donnait les Dracos. Mais il y a d'autres peuples qui se sont joints à lui, style Anunnaki, ce style Zeta Reticuli, enfin bref, il y en a un certain nombre qui se sont dit, mais lui il a raison, pourquoi les trucs à la majorité, pourquoi ceci, pourquoi ça? Donc bref, et comme Satan pouvait quand même montrer qu'il avait les pleins pouvoirs, puisque il était quand même un des plus grands maîtres à ce niveau-là, donc ils se sont laissés convaincre et ils ont suivi la musique. Le seul truc, c'est que en suivant la musique, on va dire de Satan, eh bien, ils ont privilégié plus le clonage, entre guillemets, que la reproduction dite naturelle. Car dites-vous bien que le clonage fait que votre esprit ne se duplique pas. Enfin, il se duplique pas. Il va se couper en deux, mais c'est pas deux parties. Comment dire? Avec 1, ça va devenir 0,5, 0,5. Et donc, à chaque fois que vous allez cloner, le 0,5 va devenir 0,25, etc., etc., etc. Donc, la problématique, c'est qu'il y a un épuisement, on va dire, de la quantité d'énergie de l'esprit, si je peux dire ça comme ça. Et donc c'est pour cela que les involuants ont, d'une certaine manière, besoin de se reconnecter à la source, mais aussi un besoin énorme de s'hybridifier avec les humains, c'est-à-dire avec l'ADN humain. C'est-à-dire que ces races galactiques, qui ont été coupés de la source pour cause de clonage principalement, eh bien, ont besoin d'être en contact avec ceux qui possèdent exactement ce que, par exemple, les Pléiadiens nous ont donné. Donc là, problème, c'est-à-dire que, pas un problème, on va voir ce que ça va donner par la suite, mais. Comprenez bien que les Lémuriens ont reçu, étaient en contact avec les Pléiadiens, ont reçu ce code génétique, et il y a eu, bien sûr, ça a été écrit une fois, j'en ai parlé, etc., je ne vais pas dans les détails, et il y avait donc un certain nombre de races sur cette. Enfin, de races, d'humanoïdes sur cette planète, et progressivement, ils se sont fait effacer au profit d'une seule. Donc aujourd'hui, nous partageons tous le même ADN, bien qu'on ait les yeux bridés, bien qu'on peut être noir, bien qu'on peut être jaune, bien qu'on peut, etc., etc. C'est-à-dire, c'est le même ADN, mais sous des versions différentes. Et ces différentes versions, eh bien, ce sont des caractéristiques, certaines caractéristiques qu'il y a dans l'ADN. C'est pour ça que nous sommes tous compatibles. Alors, le truc, c'est que ces Lémuriens étaient bien là bien, 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 bien avant les Atlantes. Et les Atlantes ne sont qu'une nouvelle race, en fait, qui a été apportée ensuite pour aller encore plus loin, on va dire, dans l'aspect involuant. En effet, c'est que les Lémuriens étaient dans la vibration. C'était des gens, bien sûr, en contact avec les Pléiades et donc aussi en contact avec, ni plus ni moins, tout l'aspect christique. Donc ils étaient plus dans la vibration féminine. Et les Atlantes ont été la vibration, on va dire, masculine. Donc une application relativement pratique a été faite. C'est-à-dire que les Lémuriens se sont progressivement, on va dire, parce que les Lémuriens avaient le droit à une seule vie en tant que Lémuriens. C'est-à-dire qu'une entité n'avait le droit qu'un véhicule Lémurien et un seul. C'est-à-dire qu'ils ne se réincarnaient pas en tant que Lémuriens. Ils étaient forcément réincarnés à ce moment-là en Atlante, entre guillemets, et avec quand même tous les souvenirs en tant que Lémuriens. Et donc, ces Atlantes qui avaient passé par l'école lémurienne étaient appelés tout simplement les Atlas, c'est-à-dire ceux qui possédaient la lumière, donc des Atlantes possédant la lumière. Et il y avait donc une différence fondamentale quand ils regardaient un cristal. C'est-à-dire qu'un lémurien savait qu'il était un être cristallin. Et donc, quand il faisait, on va dire, un crâne de cristal, eh bien, ce crâne de cristal était la représentation, la résonance, on va dire, par rapport à notre côté humanoïde. Et il regardait l'esprit cristallin qu'il y avait à l'intérieur. Donc les lémuriens avaient bien sûr des crânes de cristal, mais ils regardaient ces crânes de cristal comme des dieux parce qu'ils regardaient à l'intérieur les esprits cristallins et ils savaient que ces esprits cristallins, eux, n'étaient pas contaminés. Les esprits cristallins sont dans la loi de l'un. Ils ne peuvent pas en être autrement. Donc le truc, c'est que les lémuriens avaient donc la possibilité de travailler avec les crânes de cristal et d'en avoir toutes les ressources, l'accès à la connaissance. C'est-à-dire qu'à travers ces crânes de cristal, ils pouvaient se balader sur toute la grille cristalline, aussi bien de la Terre que celle de notre galaxie, que celle de la galaxie, du septième super-univers. Ils pouvaient aller où ils voulaient. Donc c'est pour ça que les Pléiadiens pouvaient venir, mais on pouvait aussi aller chez les Pléiadiens d'une manière, on va dire, éthérique. Quand les Atlantes, la civilisation Atlante est apparue, eh bien, ça a été une version, on va dire, noire. Dans le sens que les Atlantes, c'est de dire, il y a un minéral, je vais pouvoir l'utiliser. Je vais façonner le minéral comme moi je veux, afin qu'il me donne la puissance. Et j'utiliserai cette puissance pour construire la civilisation. Donc les Atlantes se sont servis, bien sûr, entre guillemets, des Etlara. Parce que l'Atlara était capable, lui, de commander à l'esprit cristallin qui était dans le cristal. Et donc, quand les Atlantes leur ont dit, eh ben, écoute, on aimerait avoir un firmament, c'est-à-dire avoir un réseau Internet qui englobe la totalité de la planète et qui nous protège de toutes les vibrations qu'il y a à l'extérieur, plus ou moins nocives, eh bien, nous allons pouvoir, à ce moment-là, avoir une mémoire commune. Nous allons aussi pouvoir donner l'énergie libre à tous. C'est-à-dire tout être vivant, toute entité qu'il y a sur cette planète disposera de tout ce dont il a besoin pour simplement découvrir qui il est. Donc chaque Atlante avait un petit cristal avec lui, qui était en fait ni plus ni moins que sa carte d'identité, on peut dire, qui lui permettait de se dire, mais je voudrais avoir une maison là. Eh bien, à ce moment-là, l'esprit cristallin décrétait la chose, enfin le décrétait, disait, ah, tiens, il y a un joueur incarné qui demande ça, alors on va faire la maison selon ses désirs. Et donc c'était forcément, bien sûr, en termes de cristal. Et donc c'est comme ça qu'a fonctionné, on va dire, l'Atlantide. Et l'Atlantide était donc une civilisation très avancée en termes technologiques. Mais ceux qui possédaient la véritable puissance pour que tout cela fonctionne étaient les Atlara. Car les Atlara, eux, étaient au-delà de regarder simplement l'aspect technologique du cristal. Et forcément, il y a eu corruption, d'une certaine manière, et cette période Atlante a commencé via un certain nombre d'individus, bien sûr, qui étaient, on va dire, corrompus par l'ombre, ont commencé à faire des essais nucléaires, tout simplement. Et donc, en faisant ces essais nucléaires, ils ont commencé à, on va dire, craqueler, entre guillemets, certaines parties du continent unique. Hein. Et la problématique, c'est que quand ça s'est empiré, ils ont fait appel aux Atlara. Et ils ont dit, voilà, on a un problème. Dans la population, il y a des gens qui se rebellent, qui ne sont pas d'accord. Parce que on a des résistants. Et donc, pour pour Satan, c'était un peu embêtant parce que, d'une certaine manière, il en faisait partie. Et à ce moment-là, les autorités politiques, parce qu'il y avait des autorités politiques du temps des Atlantes, puisqu'ils jouaient à la majorité, eh bien, ils ont donc imposé aux Atlara d'utiliser l'énergie, on va dire, libre, c'est-à-dire l'énergie apportée par des esprits cristallins, pour détruire des entités. Et là, les Atlara ont dit nada. Enfin, ceux en haut de la hiérarchie, ils ont dit nada. Et donc, en ayant dit nada, eh bien, les Atlantes, ben, les hautes autorités, hein, l'armée et donc les politiques, on se dit, bon, on va leur couper la tête, hein, on va les étriper, et puis ben, on verra si les autres y suivent ou pas. Et c'est là que ben, un certain nombre d'Atlara ont tourné leur veste pour sauver leur peau. Or, quand quelqu'un sauve sa peau, c'est qu'il pense égo, c'est qu'il pense à lui, et ne pense pas à l'utilisation collective des choses. Donc il se dit, ouais, bon, ils vont tous me tuer, moi je veux quand même rester vivant, donc. Ok, je vais participer avec eux. Voilà, parce que si tous les Atlara avaient dit non, eh bien, il n'aurait pas pu y avoir tout ce qui s'est passé, tout simplement. Donc, ça c'est, on va dire, la petite histoire en passant. Mais c'est très, très, très important de comprendre ça. Donc, il y a derrière la notion simplement de crâne de cristal, il y a la notion de celui qui se dit, tiens, je vais acquérir du pouvoir. Donc là, c'est un Atlante qui se dit, je vais profiter de l'esprit cristallin pour acquérir du pouvoir. Parce que comme je suis déconnecté de la source, il me faut du pouvoir, je suis en manque de pouvoir. De l'Atlara, qui a été, on va dire, un lémurien, qui dit, hey, moi je joue pas ce jeu-là. Je n'acquiers pas un crâne de cristal pour acquérir du pouvoir. C'est simplement pour me reconnecter à moi-même et à mon esprit, à mon être cristallin. Et donc, vous pouvez imaginer qu'aujourd'hui, il y en a très peu. D'accord? Alors maintenant, voyons ce que cela a, on va dire, apporté à l'humanité, puisque on sait que tout simplement, la civilisation Atlante a englouti tout le monde. Vous voyez, c'est pas compliqué, hein, l'histoire. Alors, ici, voilà, donc le but des Lémuriens, c'était d'apporter, hein, donc quand je mets le rouge, hein, et des Pléiadiens, hein, on va dire, ça a été d'apporter le petit point rouge, c'est-à-dire le côté christique, en disant bah, ça s'est éteint, donc on le ramène. Et bah, forcément, comme c'était l'éprouvette, pas question de laisser tomber l'éprouvette. Donc, après le déluge, qui a tout nettoyé, bien sûr, hein, qui a tout enseveli, alors je mets 8. Malgré la réimplantation après le déluge, l'humanité sombre irrémédiablement vers la déconnexion totale d'avec la source. C'est-à-dire que une partie des Lémuriens ont tout simplement sont tirés dans l'intra-terre, et à la surface est resté quelques survivants, enfin on va dire survivants entre guillemets, c'est-à-dire que c'était des colonies Atlantes qui ont été principalement réimplantées. Donc ben, la musique a recommencé, tatati, tatata, et donc toute l'histoire que nous connaissons jusqu'à maintenant, enfin l'histoire soi-disant humaine, depuis la préhistoire, et encore quand on dit préhistoire, ça veut dire que tout simplement c'était tous ceux qui avaient plus de téléphone, qui avaient plus d'internet, qui avaient plus rien, et puis qui ont été dans des grottes et qui disaient bon on va essayer quand même de faire quelque chose. Donc nous avons, on va dire, tous les vestiges de cette préhistoire, parce que nous savons que par exemple des menhirs, ce sont des condensateurs d'énergie, c'est-à-dire qu'ils condensent l'énergie, que les dolmens, ce sont simplement des salles de voyage, entre guillemets, pour aller visiter sur la grès cristalline et ailleurs. Donc, nous prenons ça en disant, ouais, c'était pour enterrer les morts, etc. C'est des foutaises, tout ça. Tout ça, c'est des conneries. Disons que tout simplement, s'ils ont trouvé des morts sous les dolmens, c'est parce que tout simplement, les individus qui allaient à l'intérieur sont partis et sont pas revenus. Voilà, donc on peut lire les choses vraiment très 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 différemment. Donc comme on arrivait à une extinction quasi évidente, puisque tout l'aspect, on va dire, lémurien avait été pratiquement détruit, annihilé, bien que dans notre ADN, il fallait réimplanter, réactiver la vibration dans l'ADN. Et donc c'est là que les planificateurs décident donc en dernier recours de faire s'incarner un Christ afin de redonner une vibration christique dans l'ADN de l'humanité. Donc un individu qui n'avait jamais, jamais, absolument jamais eu d'incarnation sur Terre, c'est-à-dire qui venait directement de cette partie-là, c'est qui était un Christ véritable, eh bien, est venu s'incarner directement dans le pot, hein, dans le bac à sable, dans l'éprouvette, direct. Et son objectif était simplement de montrer, on va dire, aux humains qu'il était capable, effectivement, de pouvoir reconstruire le temple en 3 jours, de pouvoir montrer que l'on peut devenir un immortel en ressuscitant, par exemple, hein, qu'on domine la matière et qu'on est au-delà de la matière, pour faire comprendre, bien sûr, à tous ces aveuglements, à tous ces êtres coupés, qui sont coupés de la source, de dire, regarde, tu n'es plus obligé de mourir. Tu vas avoir l'éternité. Voilà. Donc, je suis Christ et tu peux le devenir. Parce que tu l'as été, souviens-toi. Mais comme bien sûr la mémoire des individus était absolument effacée, eh bien, Jésus a, à travers, on va dire, sa mort, on va dire sa mort entre guillemets, comme il s'est incarné dans un corps humain et donc avait un ADN humain, en versant le sang, il a réactivé, on va dire, l'aspect christique qu'il y a dans l'ADN. Tout simplement. Donc c'était son job, il avait à relancer la mécanique. Alors, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé depuis 2000 ans? Eh bien, c'est clair que ce côté christique qui a été relancé, et c'est pour ça qu'il y a eu un mouvement chrétien au départ, hein, qui a été surtout bâti par Paul, Saint Paul, Paul de Tarse, eh bien, s'est fait bouffer par des politiciens, et ce mouvement politique s'est appelé le catholicisme. Et donc, le résultat, cet aspect christique, a été de plus en plus, on va dire, terni, au point que les catholiques se disent chrétiens, ceux qui sont un petit peu plus avancés diront des crétins, mais c'est jeu de mots, mais c'est important quelque part. Et le truc, c'est que pour que ceci ne soit pas perdu, parce qu'on peut dire, voilà, oui, mais alors comment ça se fait qu'on en arrivait à fabriquer des églises, des cathédrales sur les vortex et les machins et les trucs et compagnie, c'est que tout simplement, ceux qui étaient des réincarnations de, on va dire, cet esprit christique, c'est-à-dire que ceux qui avaient connu dans des incarnations précédentes l'enseignement du Christ, eh bien, se sont réincarnés à travers, bien sûr, d'autres incarnations dans le temps, et se sont dit, il faut qu'on mette cette géométrie sacrée dans des monuments, dans quelque chose, dans des temples qui va permettre à tous les individus à remonter leur fréquence. Et donc, ils ont effectivement construit des cathédrales, ils ont construit des trucs après l'an 1000, parce qu'ils croyaient que tout ça allait s'arrêter à l'an 1000. Mais non, c'était pas la fin du jeu à l'an 1000. Et donc, quand ils ont vu ça, ils se sont dit, oh merde, il faut qu'on fasse quelque chose. Et donc, se sont mis à construire des cathédrales avec donc de la géométrie sacrée, enfin, avec tout ce qu'il fallait pour qu'un individu remonte en fréquence. Or, évidemment, ben, les involuants s'en sont rendus compte. Et ils se sont dit, ah, les cocos, ils nous ont fait ça, il n'y a pas de problème. Alors, on va retourner l'arme contre eux. C'est-à-dire que, puisque la grille cristalline était plus ou moins contaminé, mais n'était pas sous le contrôle encore, on va dire, de l'involution, eh bien, ils se sont servis de ces cathédrales pour, en fait, absolument polluer la grille cristalline, et donc, à ce moment-là, la couper totalement du reste des autres grilles cristallines, c'est-à-dire celle de l'univers, celle de, on va dire, de la galaxie, mais aussi celle de l'intra-terre. Donc, grosso modo, eh bien, ces gens qui ont effectivement aidés, qui ont voulu faire le bien en construisant des cathédrales, eh bien, ont vu la chose se retourner contre eux. Donc la seule solution qu'ils ont eue, ça a été de se cacher, d'être occulte, c'est-à-dire de devenir totalement invisible aux choses. Et donc c'est là qu'est venue toute la philosophie des francs-maçons, le machin, etc. Or maintenant, quand vous regardez les francs-maçons, les loges, etc., ce sont les pires involuants qui soient d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'ils se sont fait polluer totalement, car au fil, on va dire, pas des incarnations, mais des successions soi-disant du savoir, ils en sont arrivés à être totalement pollués. Donc aujourd'hui, quand on voit un président de la République qui se tourne vers les francs-maçons, les fait des réunions pour dire comment on peut sauver la France, ça fait sourire quand même, ça fait sourire. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans cet état, c'est-à-dire où l'involution a quasiment, l'aspect matériel a pris le dessus, l'aspect mental a totalement dépassé toutes les espérances, qui fait qu'on va en arriver à une énième autodestruction. Mais, rappelez-vous, nous sommes une éprouvette, et il n'est pas question que l'éprouvette claque. Donc, on passe à la neuvième étape. « La fin du jeu de l'involution a sonné au 21-12-12. C'est le temps de la récolte, la séparation entre le blé et l'ivraie. Les élus sont ceux qui auront bougé leur cul, qui se seront reconnectés à la source, car ils auront redécouvert leur essence. Donc maintenant, eh bien, on se retrouve sur la planète Terre avec des artisans de lumière, des travailleurs de lumière, des guerriers de lumière, enfin vous mettez toutes choses lumière. Et les sombres connaissent bien la musique, hein, ils se sont nommés lumière, mais lumière extrêmement faiblarde. C'est du faiblard à l'état pur. Donc, c'est du faiblard à l'état pur, hein, parce que, ben, grosso modo, autant nous étions, on va dire, Christ au début du jeu, autant il n'y en a eu qu'un qui a réussi à le devenir sur cette planète. Donc imaginez qu'il sourit quand même grandement en se disant « Ouais, 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 la lumière dire qui, la lumière dit qu'ils vont gagner, ceci, ceci, cela, mais nous, on peut appuyer sur le bouton thermonucléaire, on peut faire sauter tout quand on veut. » Bien, donc depuis le 21-12-12, eh bien, la Fédération Galactique a décidé, hein, bon, c'est pas la Fédération, enfin bref, un conseil, machin, tout ce que vous voulez, de dire « plus de bombes nucléaires ». Ça veut dire « il n'y a plus un truc nucléaire qui va pouvoir péter ». Donc déjà, la peur de la troisième guerre nucléaire, tout ça, vous oubliez, n'alimentez pas cet égrégore, ça ne sert absolument à rien, parce que ça, c'est rayé de la carte. Alors bien sûr, comme je le disais dans la conférence hier, eh bien, il y a, ils se rabattent maintenant sur le bactériologique, le chimique. Alors ils y vont par tous les autres moyens parce qu'ils savent qu'avec le nucléaire, ils ne peuvent plus. Donc c'est pour ça qu'on a du chemtrail, qui est donc quasiment du chimique, qu'ils ont foutu toutes les saloperies dans la bouffe qu'ils peuvent, qu'ils balancent du pesticide et de l'insecticide partout, ils essayent de flinguer via, soi-disant, les OGM, etc., ils essayent de flinguer au maximum tout ce qu'ils peuvent, et voilà, voilà, voilà. Alors bien sûr, ils y vont maintenant avec toutes les ondes et compagnie, électromagnétisme et compagnie. Donc ils lâchent tout parce qu'ils ne peuvent plus utiliser la bombe nucléaire. Alors ça veut dire que bon, les moyens sont plus lents, hein, ça sera moins rapide qu'une bombe nucléaire, mais ça peut quand même être vachement efficace. Hein. Donc vous avez les systèmes ARP, enfin tout les trucs scalaires, machin, truc, enfin tout qui est capable de tuer, vous savez, les fameux armes de destruction massive, hein, on les a toujours pas trouvées, hein, mais ils les ont. Mais on en voit des pantins, c'est-à-dire, enfin quand j'ai des pantins, une civilisation atlante, c'est-à-dire ceux qui sont de l'autre côté de l'Atlantique, qu'on appelle les Ricains, qui dominent le monde d'une manière ou d'une autre. Enfin bref, donc, résultat concret. Nous sommes dans ce stade actuellement. Alors, on pouvait quand même espérer que suite à la visite quand même de Yeshua Ben Joseph, que quelque part, il y a un peu plus de points blancs. On peut dire que là, il y a zéro point blanc, puisque actuellement sur Terre, il n'y a absolument aucun Christ. C'est quand même un tout petit peu gênant, et on va dire, une bonne partie des maîtres ascensionnés, enfin de ceux qui ont réussi à faire quelque chose, une bonne partie est partie, on va dire, dans les terres, restée de l'autre côté, en se disant, bon, on va essayer de conseiller ceux qui ont eu les couilles d'y retourner, on va dire. Hein. C'est à peu près ça. Donc, le truc, eh bien, maintenant, nous sommes à une heure, on va dire, assez importante, où il va y avoir un tri. Alors, il va y avoir un tri simple. Il y a ceux qui sont tout simplement éteints. C'est-à-dire où il n'y a absolument plus rien. C'est-à-dire que l'étincelle, la petite flamme en eux, est éteinte depuis longtemps et ne se rallumera jamais. Tellement que ça fait longtemps qu'elle ne s'est pas allumée. Résultat, peu d'espoir. Donc, la logique, hein, comme tout, recyclage, ça ne sert à rien. Donc, ça va être un envoi vers ce qu'on appelle les planètes relais, vous savez, les fameuses 10 planètes, hein, c'est-à-dire que ben, l'esprit, parce que là, ça, c'est, comment dire, c'est un corps de matière dans lequel où l'étincelle d'esprit n'est pas allumée. Elle est là, elle n'est pas allumée. Parce que l'individu, eh ben, il est en train dans son métro, il est dans son truc, il est en train de regarder la télé, ou à jouer à tel jeu, ou à faire ceci, ou à faire cela, ou à s'occuper de son jardin, ou à se dire mes gosses d'abord, les autres ensuite, enfin bref, n'importe quoi, sauf que il est en mode absolument automatique. Et donc, comme il est en mode automatique, voilà, ça ne donnera rien. Donc forcément, cet ADN humain de l'humanité est totalement, bien sûr, hybride, c'est-à-dire qu'il est la somme de toutes les manipulations, hein, car dites-vous bien que ici, à ce stade, quand nous avons été, on va dire, transférés volontaires ici, on ne nous a pas transférés comme étant une méduse. On nous a mis dans un corps humanoïde avec un cerveau reptilien. Pourquoi? Parce que si vous voulez vraiment faire quelque chose avec les reptiliens, il faut être un reptilien. C'est aussi con que ça. Hein? Voilà. Alors, l'avantage aussi dans cette affaire, c'est que un certain nombre, quand même, d'involuants notoires, c'est-à-dire ceux qui ont suivi Satan sur toute sur toute la ligne, se sont rendus compte que quand même, ces humains possédaient un truc, hein, cette connexion à la source, et que bah, ça serait quand même bien s'ils pouvaient y arriver. Et donc, eh bien, il y a un certain nombre d'involuants, d'entités involuantes, qui ont tourné leur veste, tout simplement, c'est-à-dire qui désirent ascensionner. Ils désirent ascensionner. Donc, si je reprends l'aspect binaire, eh bien, ils étaient 1-1, ils étaient 1-1 et sont devenus 1-0. C'est-à-dire qu'ils sont toujours incarnés en tant qu'involuants dans un corps de matière, mais dans leur petit cœur, ils ont, ça s'allume, ils ont envie. Et donc, ces personnages, on va dire, ces entités, vont, on va dire, être recyclées, elles aussi, d'une certaine manière. Mais elles vont être recyclées sur une planète relais. Mais surtout, ce qui est important, qu'il faut comprendre, c'est qu'elles sont de nouvelles entités ourantiennes. C'est-à-dire qu'elles sont marquées, après, hein, comme une nouvelle âme. On verra, hein, plus tard ce que ça veut dire. Hein, c'est-à-dire qu'elles vont pouvoir accéder à l'âme. Car quand on est un veloin ici, on n'a pas d'âme. Il n'y a pas de rouge. Il n'y a pas d'âme. Donc comme il n'y a pas d'âme, eh bien, on peut couper des têtes, on peut en couper des millions, des milliards, ça nous fait rien. On peut être dans la justice totale, de dire, attends, toi là, le mendiant, tu me refiles ta paire de pompes, alors que tu as la bourse qui est pleine de pièces d'or. C'est-à-dire que un involuant, notoire, c'est comment dire, il n'a absolument aucune pitié. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'il n'a aucun sentiment. Et donc, le sentiment, l'émotion, c'est quelque chose que vous aurez grâce à l'âme. Et donc, grosso modo, on peut dire que dans cette expérience, eh bien, autant il y a eu, on va dire, des guerriers de lumière qui se sont fait polluer, eh bien, on peut dire qu'il y a des involuants qui se sont fait polluer par la lumière. Donc, il y a des choses positives dans cette affaire. Forcément, parce que c'est ce qu'il faut comprendre. Donc, un involuant est un maître à notre niveau, dans le sens où il nous apprend à être droit dans nos bottes, parce que lui, la seule chose qu'il sait, c'est quoi? C'est ça. Il est droit dans ses bottes. Les choses sont claires. Sa justice, c'est la sienne. Et sa sagesse, c'est ce qu'il aura appris comme expérience qu'il va faire, qu'il va pouvoir vivre plus longtemps que les autres. Donc il a bien poussé le bouchon à fond, puisqu'il avait mis cette partie-là en avant. Donc vous voyez que de ce qui était là à l'origine, c'est-à-dire des gens ayant le grade de Christ, c'est-à-dire, eh ben, excusez-moi, c'était des mous. C'est-à-dire que ce sont des mous, dans le sens qu'ils s'endorment. Ils disent, plus je monte en fréquence, plus je suis dans l'état d'absolu, et plus je suis dans l'absolu, plus je suis, plus tel, mais aussi plus je fous que dalle, et moins je spiritualise la matière. On est d'accord. Et donc on peut dire que cet état de yin-yang évoluant est un état qui allait à l'endormissement, c'est-à-dire par rapport au sommeil, retour à la case départ. C'est-à-dire, quel que soit l'individu qui arrive à l'état de Christ, eh ben, il est, point barre, et il fait quoi maintenant? Ben, il ne m'aide pas à savoir qui je suis. Donc, comprenez que la double dualité était nécessaire, c'est-à-dire aller expérimenter l'aspect matière, aller expérimenter l'aspect mental, celui qui prend les trucs et qui est coupé de la source. Voilà pourquoi l'Ourantien est absolument, on va dire, exceptionnel et qu'il est regardé, convoité par la totalité de toutes les formes de vie qui sont dans le septième super univers. Car, en fait, sans le savoir, eh bien, il a, on va dire, acquis les deux côtés. Maintenant, quand on dit qu'il a acquis les deux côtés, il est tombé dans la noirceur la plus noire. Et c'est là que vous verrez dans le prochain truc que je vais vous dire un peu plus loin, eh bien, bon, je peux quand même vous le dire maintenant. Quand on voit l'évolution, on va dire, de la double dualité, du chaos à l'unité de la loi unitaire, eh bien, au début, on avait ça. C'est-à-dire qu'on avait effectivement un côté, on va dire, harmonieux, les lois de l'un, l'unité, avec l'autre qui dit, mais moi, je ne suis pas d'accord, je suis séparé, et je vais démontrer que je suis capable de vivre sans jouer comme vous. Et donc, il y a eu une expérience, on va dire, de chute. Une chute vibratoire. C'est évident, car dans le 7e super-univers, eh bien, c'était à Christique, on ne va pas dire qu'il était perdu, mais disons que la majorité, enfin, il y a une certaine quantité, puisqu'il y a un tiers, grosso modo, du 7e super-univers qui a été contaminé et qui appartient, on va dire, quand je dis appartient, qui est quasiment aux mains de l'ombre, c'est sûr que ça commence à faire beaucoup. Donc le truc, eh bien, ce qui s'est passé, c'est qu'à fur et à mesure que les guerriers de lumière sont venus expérimenter là, il a fallu rééquilibrer. Et donc là, ici, comme vous voyez, cet aspect bleu, mais il est devenu rouge. C'est-à-dire que ça a demandé à l'autre tiers, parce que ça marche toujours par histoire de tiers, c'est-à-dire vous avez un tiers, on va dire, de sombre. Vous avez un tiers d'extrêmement lumineux. Puis au milieu, ben, c'est le dernier tiers. On va dire, ceux qui ne savent pas dans quel coin ils vont jouer parce qu'ils sont un mélange des deux. Eh bien, grosso modo, et ce mélange des deux, quand je dis ce mélange des deux, je vais vous dire ça différemment. Eux, ils ont préféré dire, bon, on se barre dans les fréquences au-dessus, on n'est plus dans le système, quoi. C'est-à-dire que vous avez... C'est comme les gens qui ont la carte d'électeur. Vous avez 30% d'abstention. C'est-à-dire qu'ils ne votent ni à droite ni à gauche, ils n'en ont rien à battre, ça les intéresse pas. Ben, c'est à peu près ça, si on voulait dire comme ça. Hein? Donc, la partie, on va dire, qui était dans les lois unitaires, il a fallu qu'ils aillent encore plus loin dans leur côté christique. Il a fallu qu'ils aillent plus loin, parce qu'avant qu'il y ait la partie noire, eh ben, c'était cool de devenir Christ. C'était pas quelque chose d'exceptionnel, puisque ben, on vivait tous, voilà, on avait juste à progresser dans les dimensions et à suivre notre musique, peinard, et puis voilà, et puis ça prenait le temps que ça prenait, et puis voilà quoi. D'accord ? Donc c'était un endormissement, c'était un ramollissement, c'était tout ce que vous voulez, mais c'était pas ce qui était voulu, on va dire, par le sang noir. Mais bon, c'était une étape. Et donc, eh bien, maintenant, on peut dire que... la partie christique de l'autre côté, du monde de l'invisible, est encore plus Christ qu'elle n'a jamais été. C'est-à-dire qu'elle a, il a fallu qu'elle regarde le sombre et qu'elle fasse avec, chose qui n'était pas. Donc il a fallu qu'elle développe, non pas un état combatif, mais un état défensif. C'est-à-dire, elle dit, ben, je ne vais pas attaquer parce que je ne suis pas dans la séparation, mais je ne vais quand même pas me laisser bouffer. Donc, je vais faire le nécessaire pour que l'autre ne puisse pas venir me bouffer. Donc, ça veut dire que tu montes encore en fréquence, beaucoup plus. Voilà pourquoi les êtres aujourd'hui qui nous contactent, au niveau de, qui sont dans les lois unitaires, sont d'une certaine manière encore plus puissants qu'ils n'ont jamais été. Parce qu'il y a eu cette expérimentation ici. Donc, plus ici c'était noir, et vous pouvez voir que maintenant, c'est bien ce qui se passe. Nous sommes dans la noirceur pratiquement presque totale, et bien là, ils sont dans la blancheur presque totale. Enfin, ils sont une blancheur qu'ils n'ont jamais été, on va dire. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, et bien, c'est le phénomène dit de l'ascension. C'est-à-dire que puisque la fin du jeu a été sonnée, et bien, nous passons de la chute, c'est-à-dire on descendait dans les fréquences, pour remonter. Or, ceux-là ont été jamais aussi blancs, et ceux-là jamais aussi noirs. Donc, l'objectif, c'est quoi? C'est de faire que le noir, entre guillemets, s'équilibre. Et donc, pour que le noir s'équilibre, ben, il faut que le petit point gris ici devienne blanc et à 50-50, c'est-à-dire l'équilibre. Alors bon, ici, si j'avais mis à 50, ça vous ferait tout ça, on ne verrait plus, mais comprenez qu'il faut que ça s'équilibre. Donc, un individu orientien, c'est-à-dire celui qui est dans l'éprouvette, s'il arrive à équilibrer les deux, c'est-à-dire à redévelopper son étincelle d'esprit, c'est-à-dire à l'allumer. D'accord, hein, de particules, il vient une étincelle. Et de l'étincelle, il enclenche le germe christique. À ce moment-là, il va effectivement regrandir. Et ce qui est important, et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que le blé dont je parle, il est là. C'est la récolte. C'est-à-dire que c'est celui qui sera arrivé à faire l'équilibre entre son masculin et son féminin, entre la matière et la non-matière. Voilà pourquoi nous sommes dans un monde de 3D, 4D. Nous sommes dans un monde de 3D, 4D, car c'est le monde de la dualité maximale. C'est le monde de la personnalité. On verra aussi le monde de l'âme, parce que quand vous êtes ici, il n'y a pas d'âme. Mais ça sera l'affaire de la prochaine vidéo. Mais comprenez cela. Si vous arrivez en tant qu'être incarné dans la matière à rééquilibrer votre masculin-féminin, vous allez donc être un maître ascensionné incarné. Parce qu'un maître ascensionné qui n'est pas incarné, excusez-moi du peu, à part donner des conseils, il ne peut rien faire. Parce que s'il n'est pas incarné, il est forcément, d'une certaine manière, dans les lois de l'un, il est là, et qu'est-ce qu'il peut faire? À part donner des conseils? Rien. Donc, il faut bien qu'il y ait des gens qui soient incarnés, qui soient dans la matière, et qui utilisent la puissance de la matière, afin de rééquilibrer le tout. Donc, forcément, un maître ascensionné incarné, quelqu'un qui a équilibré son masculin-féminin, est un immortel. Ça veut dire qu'il a vaincu la mort. Or, vaincre la mort, c'est quoi? C'est vaincre cette stupide idée qu'on peut vivre sans la source. Qu'on peut vivre coupé du réservoir d'essence, enfin de la pompe à essence. C'est-à-dire que être immortel, c'est je suis connecté à la corne d'abondance, c'est-à-dire que mon corps n'a plus besoin de vieillir parce qu'il en manque. Et parce qu'il est en abondance, eh bien, il va reprendre son fonctionnement normal, comme il avait été prévu au départ. Car croyez-moi, que quand nous sommes venus en tant que guerriers de lumière sur cette planète, ce n'était pas avec une espérance de vie de 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, et éventuellement un siècle maintenant. Tout combattant, généralement, il ne meurt pas à 100 ans, quoi. Il meurt bien avant, hein, dans la matière. Hein. Donc, nous avons une machine qui est là pour durer des millénaires. Et nous vivons à des dizaines d'années, on va dire. C'est même pas un centenaire. Donc, comprenez que le fait de rééquilibrer notre masculin-féminin amène cette immortalité. Donc il faut retrouver cette capacité en nous reconnectant à la source. Bien. Donc cela fait, quand il y aura suffisamment d'individus qui seront des maîtres ascensionnés, eh bien, ils auront le ticket pour passer en 5 et 6. C'est-à-dire que la planète Terre, l'éprouvette, passera à ce moment-là en 5 et 6. Mais elle ne passera en 5 et 6 sans livre, forcément, puisqu'elle ne sert plus à rien, elle est complètement éteinte. Donc cela, comme je l'ai dit, bon pour recyclage, envoie vers les planètes relais pour qu'ils se refassent une santé. Mais ils seront aussi immortels, je vous signale. C'est-à-dire qu'ils ne pourront pas mourir, parce que les gens oublient, ouais, les planètes relais, les planètes prison relais, enfin tout ce que vous voulez, ouais, les 10 planètes, ouais, c'est une punition. Non, c'est une couveuse. Le seul truc, c'est que vous ne pourrez pas mourir. C'est-à-dire que vous aurez un corps, et dès que vous, par une méthode ou une autre, vous essaierez de tuer ce corps, vous allez réapparaître dans le même corps, mais avec toutes les souffrances de la mort. Donc, généralement, c'est comme se prendre un courju, quoi. C'est-à-dire, c'est tellement désagréable que vous n'allez plus essayer, entre guillemets, de vous tuer, de vous suicider. Hein ? Donc, le suicide n'étant plus permis, eh bien, vous ne pourrez que regarder en face la vérité, la stricte vérité, et rien que la vérité. Et la vérité, c'est quoi? Vous êtes un être de lumière. Et vous êtes ici, enfin ici, quelle que soit la planète relais où vous serez ici pour reprendre la route christique. Et c'est pour ça que j'appelle ça des couveuses, mais qui sont des centres de rééducation. C'est-à-dire que tous les programmes que vous avez involuant maintenant, vous allez les regarder en face, les uns après les autres, parce que je rappelle que si vous allez vers une planète relais, et ce sera le cas de la majorité, on va dire même de la totalité de l'humanité, si vous allez vers une planète relais, automatiquement vous allez retrouver la totalité de toutes les mémoires de ce que vous êtes ici et maintenant. Alors imaginez que pour une raison X, Y, Z, vous venez à mourir demain et que vous aviez votre iPad dans la poche, le téléphone à côté, enfin tous les trucs, vous allez vous retrouver au milieu d'une clairière où il n'y a pas d'iPad, où il n'y a pas de téléphone, où il n'y a pas d'ordinateur, où il n'y a pas l'électricité, et vous allez vous la retrouver à la Cro-Magnon. Et là vous dites, merde, j'ai plus ma pizza. Oh merde, comment je fais? J'ai plus de micro-ondes. Oh merde, comment je vais faire là? Et vous allez redécouvrir par la force des choses, comme ce que dit Maman Urantia Gaïa, les fondamentaux, c'est-à-dire le respect de la vie. Alors on va dire, oh, moi je vais couper les arbres, tout ça, pour faire une maison. Oui, t'auras même pas un couteau. Et ouais, non, mais ça va être sympathique. Hein. Donc, selon l'état d'avancement où vous êtes au moment de votre mort, on va dire de votre mort physique, de votre désincarnation de cette planète, parce que dès que vous allez vous désincarner de cette planète, vous allez vous réincarner illico presto, pas en venant un petit bébé, mais vous allez vous retrouver dans un corps adulte directement. Et en plus, ce corps sera immortel. Donc, vous allez, par la force des choses, être obligé de regarder où vous en êtes et ce que vous n'avez pas voulu regarder. Et donc, c'est pour ça que nous sommes dans ces temps réduits, c'est-à-dire dans cette capacité que nous avons actuellement de faire des pas de géant si vous bougez votre cul. Donc, le petit pas que vous allez faire là maintenant, c'est des milliers d'années, c'est des milliers d'expériences que vous allez éviter de faire parce que vous aurez fait, comme dirait l'autre, vous êtes dans une couveuse actuellement qui a mis tous les turbos au niveau de la croissance. Donc, plus vous allez vous débarrasser vite de ce que vous ne voulez pas, c'est-à-dire de vos programmes involants, enfin d'un certain nombre de choses, et plus vous allez croître. Et plus vous allez croître, et bien plus vous irez dans une sphère différente et qui sera certainement plus sympathique. Donc je ne vais pas vous refaire la vidéo et tous les trucs sur les 10 planètes, mais vous pouvez aller les revisiter si vous voulez, ça vous fera du bien. Alors voilà, donc ça c'était par rapport à, je dirais, un individu. Et il y a une option, on va dire, ici, parmi le blé, il y a une option. Et vous savez que nous sommes dans un corps sexué. Parce que le but de cette double sexualité, double dualité, excusez-moi, c'est de pouvoir vivre votre androgynie, on va dire, de l'esprit, puisque l'esprit est androgyne, il est ni mâle ni femelle, il a les deux, dans un corps sexué. Ça veut dire un corps mâle ou un corps femelle. Donc vous allez bien être obligé de vivre les quatre possibilités de la double dualité. Puisqu'il va vous falloir vivre, comment dire, si vous êtes un mâle, c'est-à-dire un yang masculin et féminin, et vous allez être obligé de vivre dans un corps de femme, c'est-à-dire un yin masculin et féminin. Donc, c'est pour ça que dans nos différentes incarnations, nous incarnons aussi bien en tant que femme et en tant qu'homme, parce que les deux trucs sexués doivent être expérimentés en androgynie, au niveau de l'esprit. Dit autrement, quand deux individus incarnés, ayant atteint le stade d'immortel, sont en parfaite adéquation fusion, c'est-à-dire bien sûr un immortel mâle et un immortel femelle, sont en parfaite adéquation fusion, alors ils deviennent Christ. Ça veut dire que autant ici on était Christ, mais on était Christ dans un corps androgyne, donc on était dans une dualité simple. L'esprit est androgyne et notre corps était androgyne. Donc, dans cette inversion, basculement, est apparu le mâle, androgyne, et la femelle, androgyne. Donc, il faut réaliser, et c'est le but que nous demande le surnom, la double dualité. Voilà, donc vous voyez, devenir Christ aujourd'hui sur Terre est le challenge le plus dingue qui soit. Parce que nous sommes dans l'éprouvette, et comme Jésus nous avait dit, bah, vous ferez aussi bien que moi, voire même mieux, et il y aura plein de Christ, c'était parce qu'il était très optimiste. On est d'accord. Mais il faut toujours être optimiste hein, quand on est un tout petit point blanc parmi toute la noirceur. Parce que si vous n'êtes pas optimiste, c'est pourquoi tu es venu, quoi. Hein? Donc il était très optimiste. Alors, bien sûr, dans la moisson, il n'y aura pas beaucoup de blé. Mais il y aura beaucoup d'ivraies. C'est ainsi, c'est le cycle de la vie, et de toute façon, un esprit ne meurt pas, quel qu'il soit. Donc même ce fameux Satan ne mourra jamais, on ne pourra jamais. Pourquoi? C'est le sans-nom, lui aussi. Donc il poursuivra sa route, mais il aura fait son job. C'est-à-dire, il aura fait son job de montrer que le mental, entre guillemets, s'il essaye de se la jouer en étant le chef, en comprimant les énergies féminines, eh bien, il se coupe de la source. Et en se coupant de la source, automatiquement, il amène la désolation. Mais il fallait le vivre dans la matière. Et c'est pour ça, quand on dit spiritualiser la matière, comprenez ce que ça veut dire maintenant. Ça veut dire que vous êtes dans un corps de matière incarné et qu'il va vous falloir, entre guillemets, y amener la notion totale qui est celle du Christ, c'est-à-dire un amour, c'est-à-dire un partage de l'information et de toutes les vibrations, une compassion, un don de soi, un partage, en parfait équilibre avec la droiture, la clarté, la justice et la sagesse. Si vous arrivez à cela, eh bien, voilà ce que ça amènera dans le futur. C'est-à-dire que le phénomène, excusez-moi, ascensionnel sur Terre va amener l'antidote pour le septième super-univers. Et donc à ce moment-là, regardez, le noir ne disparaîtra pas. C'est simplement ici que cette petite point blanc-gris va devenir non seulement blanche, mais va aussi, parce que quand on va dire blanc, entre guillemets, c'est comme si on disait un maître ascensionné, mais si elle devient Christ, à ce moment-là, il devient, vous savez, comme le rouge, là, c'est-à-dire la vibration, il est la vibration. Et donc vous spiritualisez la matière. Et le résultat, l'ensemble, vous voyez, tous les traits sont rouges, baignent dans les lois de l'un. Donc, mettez-vous hors de la tête qu'il faut tuer de l'involuant, qu'il faut faire ceci d'un aux involuants, que c'est de la crasse, que c'est de la merde, que c'est... Non, vous n'avez pas à combattre. Vous avez simplement à regarder, à comprendre les leçons qu'ils vous ont données, et surtout, à devenir un maître ascensionné en équilibrant ce côté masculin avec ce côté féminin. Et donc, une fois que cela est fait au niveau de la planète Terre, de la planète Urantia Gaïa, eh bien, à ce moment-là, ça va entraîner, on va dire, la fusion du septième super-univers. D'abord, le septième super-univers va, puisqu'il y aura l'antidote, à ce moment-là, toutes les planètes, tous les systèmes solaires qui ont été, on va dire, pollués, enfin, entre guillemets, ça, ce n'est pas le cas, hein, c'est le mot que je vais utiliser, mais qui a été contaminé par l'aspect matériel et mental, va pouvoir, à ce moment-là, aller taquiner les énergies christiques et donc se réincarner dans des corps sexués, certes, mais avec la possibilité, on va dire, d'avoir une âme et de découvrir ce qu'est le sentiment. Mais aussi, en même temps, celui qui sera dans son corps de matière ici, vivra totalement l'état de Christ, c'est-à-dire du service à autrui total. Et donc, démarrant au niveau de la planète Terre, qui est une planète d'eau, je vous le rappelle, eh bien, nous aurons effectivement atteint l'objectif, c'est-à-dire celui qui va permettre au premier cercle atomique de pouvoir fusionner. C'est-à-dire que le septième ici fusionne et entraînera par là en conséquence les six autres qui va faire que ça va fusionner. Et à ce moment-là, ici, ce sera effectivement, on va dire, le truc christique, mais on va dire en double dualité. Ceci étant, on va pouvoir passer dans le huitième super-univers. Or, vous le savez maintenant, que le huitième super-univers s'appelle le cordon d'Eléa. Voilà pourquoi cette planète Urantia Gaïa est précieuse. Parce qu'elle est la porte de sortie, elle est la porte de la paix du septième super-univers, mais aussi la porte vers le futur de l'expérimentation dans l'élément eau. Parce que nous allons effectivement découvrir l'amour solaire. Alors nous aurons fait un pas, puisque je vous rappelle qu'il y a six strates. Eh bien, nous aurons fait à ce moment-là la première strate, au même titre que la première strate de l'amour christique était tout simplement le minéral. Voilà pourquoi tout est basé sur, aujourd'hui, cet être cristallin, car l'être cristallin est à la base et il est le plus puissant, on va dire, de tout ce qui est, dans le sens qu'il est la première couche qui touche la source. Donc quand j'entends dire des gens que les crânes de cristal sont habités par des entités maléfiques, d'après vous, c'est qui cause? L'involument ou celui qui aspire à redevenir Christ? Nous sommes des êtres cristallins étant venus faire une expérience solaire. Nous sommes des cristallins, cristallins. Un Christ dans les lois de l'un, un cristallin. Et nous revenons dans la couche 1 de l'amour solaire. Est-ce que vous comprenez maintenant ce que ça veut dire? Et quand on aura complété ce deuxième cercle de vie, eh bien, à ce moment-là, on pourra passer à l'amour cristallin. Donc l'élémentaire. Car l'eau apaise le feu. Et l'eau, on va dire, irrigue la terre. Donc, c'est une logique. Alors, ça prendra le temps que ça prend, mais en fait, dans la réalité, le temps n'existe pas. Tout ça, ça se déroule en même temps. Mais bon, ça sera l'affaire de d'autres vidéos, et c'est pour ça que la vidéo numéro 2 que je devais vous faire concernant le temps n'a pas été faite, parce que, en fait, il fallait que vous compreniez tout ceci avant. Parce qu'autrement, ce serait resté que de la théorie. Voilà. Donc, le sans-nom est en train d'expérimenter la double dualité. Nous sommes dans le 0-1, la première étape du 0-1. Et après, il expérimentera ça et ça. Voilà comment le sans-nom désire découvrir qui il est. Et qui sont les meilleures entités qui puissent faire avancer le schmilblick. Eh bien, ils s'appellent les Orantiens. Alors, c'est pour ça que la peur que l'on peut avoir de découvrir notre véritable puissance, notre essence même, peut vraiment nous foutre les chocottes. Voilà pourquoi la Terre va devenir un centre, un sas de passage vers le deuxième cercle atomique, qu'elle deviendra une école. Parce que toutes les entités qui seront dans ce septième super univers passeront, pas forcément seulement dans cette école, mais beaucoup passeront dans cette école, pour apprendre de ce que nous avons appris dans toute cette expérience involutive. Nous avons été volontaires pour ça. Il n'y en a plus beaucoup qui s'en rappellent, mais un nombre suffisant serait quand même bienvenu. Donc nous avons devant nous, non pas 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans, 5000 ans, mais nous avons devant nous suffisamment de temps pour faire que ceux qui se rappellent, ceux qui peuvent se reconnecter à cette vibration qu'ils ont dans ce corps de matière, eh bien, vont pouvoir faire grandir cette bulle. Et forcément, eh bien, les choses fonctionneront de mieux en mieux. Il est évident que plus il y aura de blé, plus il y aura de chances d'avoir des couples, et donc des possibilités de Christ. Et donc, c'est pour ça que parmi nombre de marcheurs qu'il existe aujourd'hui, eh bien, beaucoup ont tout laissé tomber, plaqué par les synchronicités, par les choses. Ils étaient peut-être mariés, divorcés, et puis ils vont se retrouver avec quelqu'un d'autre, mais ils ne savent pas d'où ça vient, mais ils savent qu'ils ont des affinités, ils ne savent pas pourquoi. Parce que les cartes sont en train d'être redistribuées. Et plus il y aura de couples qui vont se former, et plus la possibilité qu'il y ait des crises sera grande. Mais avant de vouloir rencontrer quelqu'un, il faudrait peut-être déjà commencer à bosser sur soi. Parce que comment voulez-vous attirer un maître ascensionné si vous n'êtes pas vous-même un maître ascensionné? Donc je ne dis pas qu'il faut attendre d'être un maître ascensionné, mais je dis que quand deux marcheurs, quand des marcheurs sont arrivés aux mêmes fréquences, eh bien ils peuvent se reconnaître et il y aura des affinités parce que ceci est déjà programmé. Pourquoi? Parce que le temps n'existe pas. Et sur d'autres plans de conscience, ces choses sont déjà arrivées. Donc, ici, la grande différence, c'est que nous le vivons dans la matière. Car avant de rencontrer quelqu'un dans la matière, dans son corps physique, là, vous l'avez rencontré dans les autres dimensions. Et c'est pour ça qu'il est important d'écouter les synchronicités. que quand votre petite voix vous dit de faire ceci, faites-le. N'essayez pas de diriger votre vie avec votre mental, avec votre logique, avec votre raison. Suivez votre petite voix. Ayez confiance et vous allez voir que les choses se mettront en place d'elles-mêmes. Nous avons la totalité de toutes les entités du 7e super-univers derrière nous pour nous aider. Alors, on n'est pas tout seul. Bien, je vais vous laisser là-dessus et j'espère que vous aurez compris que la Terre, c'est pas juste une planète paumée dans cet univers immense. C'est le bout de la chaîne. C'est celui où tout se passe. Et vous êtes là, ici, maintenant, à le vivre. Alors, bougez votre cul et trouvez pas d'excuses pour pas bouger votre cul. Allez, merci beaucoup et à bientôt.